Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 33e Weekly News. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette heure d'info consacrée aux comics et dérivés. Avec moi cette semaine pour parler de l'actu, Mr. René Bunny.
Oui, bonjour les gens et bonjour les gentes.
Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Sam.
Bonjour, comics paroissiens et paroissiennes.
Non, le comics citoyen c'était mieux quand même.
C'était mieux, ouais, les comics citoyens.
Il faut innover.
Cette semaine, nous allons parler de DC, des annonces concernant le prochain gros arc de Snyder et Capullo sur Batman, la nouvelle série Superman. Nous parlerons aussi du retour d'Astro City. Chez Marvel, énormément d'annonces avec, entre autres, une nouvelle série Daredevil, Zeb Wells qui revient sur Spider-Man. Nous parlerons aussi de l'indé avec, là encore, pas mal de petits projets, les chiffres des ventes. Le gros sujet de cette semaine sera consacré au digital et Marvel qui a fait énormément d'annonces digitales cette semaine à la conférence South by Southwest. Enfin, nous terminerons avec le Screen News et les infos cinéma et jeux vidéo du monde comics. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Nous sommes le lundi 11 mars et on va commencer l'émission comme chaque semaine avec le petit tour de ce qui se passe dans nos vies avec le Quad 9. Et on commence par toi, Mr. Bunny, parce que je sais que tu ne savais plus quoi dire dans ton Quad 9. Donc justement, j'ai envie de te foutre dans la merde pour débuter l'émission.
Eh ben écoute, c'est moi qui vais te foutre un petit peu dans le caca, puisque hier soir, nous étions ensemble, nous avons passé une nuit mémorable, encore une fois.
J'en ai encore des frissons.
C'est pas la première fois en plus. Hein.
Ouais, vous êtes allé jusqu'au bout de la nuit, c'est ça?
Oui. Alors déjà, on commence généralement, on regarde des hommes courts vêtus qui se frottent les uns contre les autres.
Huilés, bien sûr, épilés aussi.
Exactement.
Donc vous confirmez que vous aimez les films de gladiateurs.
Et le pire c'est que c'est vrai, puisque
mais ce sont des gladiateurs des temps modernes. Hein.
Et hier soir en plus ils étaient dans des cages. C'est pour rendre encore un petit côté encore plus pervers à la chose.
Ils avaient des boules dans la bouche ou
dans le main event c'était Bouliré, donc peut-être qu'il avait une boule dans la bouche, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas terrible, terrible quoi, oui, hier soir.
Bon, on précise hein, pour ceux qui n'auraient pas compris de quoi on parle de pay-per-view de catch. Non mais parce qu'il y a sûrement des gens qui ne connaissent pas forcément et qui ne savent pas ce que c'est, donc voilà.
Ouais, qui doivent se dire oh là, ils aiment bien les héros costumés, forcément.
Non mais Bully Ray ne parle pas à tout le monde non plus, hein, c'est pas le personnage le plus emblématique.
En tout cas, voilà, sinon on a fait surtout que discuter les trois quarts du temps. Ouais.
Un pay-per-view qui n'était absolument pas passionnant, malheureusement.
Ouais. Avec une fin que j'avais devinée dès le début. Ouais, c'est ça qui était drôle.
C'était assez énorme.
Ouais. Ça, c'était drôle, par contre. C'était le seul truc marrant de la soirée.
Quoi d'autre, sinon ?
Sinon, je me suis acheté des jeux sur le Xbox Live, puisque la semaine dernière, c'était des grosses promos. Mm-hmm. En fait, c'était des promos différentes chaque jour, mais fallait vraiment surveiller ce qui se passait parce qu'on les avait pas à l'avance. On n'avait pas la liste exacte des jeux qui auraient tel jour en promo. Je me suis pris quoi ? Je me suis pris le premier BioShock, qui était à 5€, donc à ce prix-là, ça ne se refuse pas.
C'est clair.
Et Dead Island aussi, qui est vraiment sympa.
Très sympa, ouais.
Donc voilà, je casse du zombie pour, je crois que c'était 10€ le Dead Island. Ou non, même pas, 5€ je crois aussi celui-là. Et toujours est-il que, bah voilà. Bon alors, c'était assez étonnant parce que autant il y avait des jeux qui étaient vraiment pas chers et qui bénéficiaient d'une réduction extraordinaire, autant il y en avait d'autres qui restaient à peu près au même prix, enfin, qui étaient aussi chers que ces jeux autant réduits, alors que c'était pas du tout des jeux du même niveau. Et donc c'était assez étonnant, je sais pas comment ils ont sélectionné au fait les réductions quoi sur chaque jeu.
Toi t'as eu une bonne surprise hein, Bruno, avec Max Payne.
Ouais bah enfin moi c'était surtout pour toi hein, parce que moi je l'avais déjà Max Payne, mais c'est vrai qu'il était à 5€ Max Payne 3 pendant une journée, donc des super bons prix et
pour un jeu qui est sorti il y a à peine un an.
C'est ça ouais. Donc non, il y avait bonne surprise Tekken Tag Tournament 2 aussi. Enfin maintenant on en parle, c'est trop tard hein, donc faut pas essayer d'aller les acheter, ils sont à nouveau chers mais
j'ai
c'était vraiment une bonne initiative.
J'ai réussi à louper, bah moi je peux le dire, j'ai réussi à louper la promo Max Payne 3 parce que sur un certain site qui s'appelle Gameblog, que tout le monde connaît, ils avaient fait un article, que je pourrais retrouver d'ailleurs, où le mec disait tel jour de la semaine, je crois que c'était le 4, ces jeux-là sont encore en réduction pendant 6 jours.
Non, en fait, c'était à mon avis 6 heures parce que apparemment Microsoft avait merdé en mettant les jeux justement en promo, les promos bah pour le jour où il y avait Max Payne était sorti vachement en retard et ils avaient prolongé la promo jusqu'au lendemain matin
Alors,
midi un truc comme ça.
Dans ce cas-là, faut corriger son article parce que c'était 2 jours après. Donc 2 jours après, je vais sur Xbox Live en me disant ah bah c'est cool, les jeux sont toujours en promo et au fait plus du tout. Et c'était pas du tout précisé dans l'article, il y avait que dalle quoi. Donc dans ce cas-là, quand même quoi,
C'était valable qu'une journée, ouais.
un petit merde.
Récapitulatif.
Ouh, non, pas
Non,
récapitulatif,
rectificatif.
rectificatif, ben oui. Comme rectum quoi, enfin voilà, c'est pourtant un mot que je connais bien.
C'est du lit.
Bravo, bravo.
Allez, Bruno, ton quoi de neuf?
Cette semaine, ce week-end, je suis allé. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé dans une fête foraine. Et il y avait la fête foraine à Bordeaux, et donc je suis allé faire un tour donc avec ma copine à la fête foraine pour voir un petit peu comment c'était, s'il y avait de nouvelles attractions depuis les 10 ans où j'étais pas allé.
La réponse est non.
Non, pas vraiment. Si, j'ai découvert un truc, c'est j'ai découvert l'échelle brésilienne. Alors, ce n'est pas une pose du Kama Sutra,
Oh putain, on a l'impression.
mais c'est
Ah
quelque
bon?
chose d'assez étrange.
On m'aurait
C'est une
menti?
sorte d'échelle. Enfin, vous connaissiez-vous l'échelle brésilienne?
Je connais pas du tout.
Bien sûr, je fais ça tous les week-ends, l'échelle brésilienne.
C'est une échelle en fait qui est tendue entre, enfin,
Oh.
qui est tendue. Je veux dire, enfin, c'est difficile à expliquer. Il y a les barreaux d'échelle en fait qui ça tourne en fait sur elle-même. Et donc en fait, il faut réussir à atteindre le haut de l'échelle sans se retourner. Et si on arrive à faire ça, on gagne 100 € cash. Donc en fait, tout le monde se croûte, bien sûr. Mais les personnes qui possèdent le stand, ils sont capables d'y arriver très facilement. C'était assez étonnant.
Et la solution, c'est tout simple, c'est les gens qui possèdent le stand peuvent arrêter la machine, donc effectivement, ils y arrivent très simplement.
Non, mais ça tourne tout seul en fait. Mais c'est assez étrange. Donc voilà. Donc j'ai découvert l'échelle brésilienne ce week-end.
Ok, et eh bien on va commencer les brèves après cette longue introduction étrange. Et on commence tout de suite avec ce qui a été annoncé juste après l'arrêt de l'enregistrement pour nous la semaine dernière, le titre de cette...
Qui va devenir une chronique régulière d'ailleurs.
Tout à fait.
La grosse
D'ailleurs,
news annoncée juste après
on
l'enregistrement.
surveille tout là, les news là, on fait F5 tout le temps là pour vérifier.
Oui, c'est donc l'annonce du titre de la nouvelle série de Superman, scénarisée par Scott Snyder et Jim Lee. Au dessin, c'est donc Superman Unchained.
Voilà.
Pour une raison qui reste encore à expliquer.
Bah, Django?
Unchain my heart,
Non, Django? Django
baby.
Unchained? C'est la mode?
Ouais, je pense aussi
Voilà.
que c'est notamment grâce à cette couverture iconique où on voit Superman briser ses chaînes.
Je
Mais
plaisantais, hein, de toute
c'est
façon,
quand même
mais...
très con, sachant que la série va sortir le 12 juin, soit quelques jours, 2 jours exactement avant la sortie du Man of Steel aux États-Unis. C'est quand même très con de pas faire une série Man of Steel.
Oui, surtout que ça a déjà
Alors,
existé.
ouais.
Bah oui, en plus.
C'est un titre classique, donc...
Il y aura peut-être une adaptation du film en comics qui s'appellera Man of Steel et qui, du coup, il voulait peut-être éviter la.
Mais je vois que ça hein, comme explication, parce que franchement,
Ouais.
se priver du titre Man of Steel, qui est quand même sacrément vendeur, c'est un peu débile, quoi. Superman Unchained, c'est. Enfin, franchement,
Ça
ça me
sonne
donne pas envie
mal.
d'aller ouvrir le comic, quoi.
Ouais, moi aussi, ouais.
Enfin. Par rapport
Amour
à
à
la
9 outre un des titres.
sollicitation, c'est quand même plutôt bien trouvé. Enfin, parce qu'il c'est censé être un petit peu un Superman qui va au-delà un petit peu de ses limites et de son côté Boy Scout. Donc, mettre en avant un peu le fait qu'il est capable quand même de sortir un petit peu de ce côté très propre sur lui-même, quoi. Donc, on aura peut-être un truc très péchu et donc il sera libéré de ses chaînes, quoi. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Bah surtout, on attend un bon titre Superman qui nous changera depuis un moment.
Alors, le truc qui fait un petit peu peur aussi, c'est ce qu'a dit Scott Snyder. Quand il a parlé de la série, il a expliqué qu'il y aurait des relations entre Clark et Lois, bien évidemment, hein, on ne peut pas se passer d'une série Superman sans ça. Mais il explique aussi que, bah, malgré tout, c'est quelque chose qui vient naturellement, quand il écrit les scénarios. Donc bon, où en est la relation Superman-Wonder Woman? Et finalement, était-ce... Juste une passade de détruire ce couple et peut-être le reformer ensuite dans les pages du titre qui sera sûrement le plus vendeur, celui par Snyder et Jim Lee.
Bah c'est surtout qu'ils peuvent pas s'en passer à partir du moment où il y a un film sur lequel à l'écran tu vois Lois et Clark. C'est toujours le même problème, au fait, hein. C'est comme quand on essaye d'évincer Mary Jane des comics, elle revient avec les films.
Ouais, bah oui, non, mais je suis d'accord. Bruno, Sam, ça vous plaît ou ça vous plaît pas cette idée
Bah après, c'est très vague hein, ce qu'il dit, hein. Ça veut pas dire qu'il va se remettre avec Loïs dans les mois qui viennent, hein. C'est peut-être juste qu'ils vont continuer à se tourner un petit peu autour. Enfin, même dans la série Superman actuellement, il continue à y avoir un petit peu cette jalousie. Malgré que Superman sorte avec Wonder Woman, il apprécie pas trop qu'elle emménage avec son nouveau copain et tout. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même un petit peu dans le comics.
À quand un Superman polygame? Un Superman
Ouais,
mormon?
peut-être. Hein. Superman polygame, ouais, tout à fait. D'ailleurs, Polygam Man, ça pourrait être un bon nom de super-héros.
Sam?
Bah non, moi ça me dérange pas vraiment puisque j'avais toujours compris qu'ils allaient reconstruire en fait le coup par étapes successives. Donc c'est vrai qu'on aura l'histoire Superman ou Wonder Woman pendant un temps, puis ensuite on reviendra à autre chose, hein, donc je veux dire, c'est l'avantage du relaunch, de vraiment revenir en arrière et réécrire ces histoires en réalisant certains trucs qu'on n'avait pas fait la première fois. C'est tout.
Très bien, bah, d'un Snyder, enfin d'une série Snyder, on va passer à une autre série Snyder, le Batman de Snyder. On a enfin appris quel serait le thème du prochain arc de Snyder en 11 parties. On en avait parlé la semaine dernière, on avait appris que ce serait en 11 parties justement. Cette fois-ci, on a le thème, ça s'appelle Zero Year. C'est donc la première année de Batman. Je sais que c'est quelque chose qui t'a profondément fait chier, Sam.
Oui, non. Ce qui me fait chier, c'est la durée du truc. 11 parties.
Ouais,
ça va quand même, ça va quand même durer grosso modo de juin 2013 à mai 2014. Donc en gros, pour revenir à la continuité actuelle de Batman, il faudra attendre le moitié de l'année prochaine.
Bah, c'est pas les titres Batman qui manquent où on aura Batman.
Oui,
qui
je
sera
sais, mais
à notre
Batman
époque,
c'est
quoi.
quand même le titre central.
Ouais, c'est vrai.
Donc il aurait mieux valu, pour un truc aussi long, ça se passe dans une maxi-série à côté, et pas dans la série régulière.
Alors, il nous explique que cette année zéro ne sera pas un moyen de redire les origines une fois de plus. Les origines sont établies, tout le monde les connaît, pas besoin de s'embarrasser de ça. Il va surtout nous parler de comment Batman est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire la construction de la cave, les premiers ennemis qu'il a affrontés, et apparemment, il ne touchera pas au Year One de Frank Miller.
Bah, il y a beaucoup d'espace hein, dans Year One, puisque de toute façon, c'est... Bon, j'ai toujours perçu ça plus comme l'histoire de James Gordon que de Batman. Hein, donc...
De Catwoman même.
Ouais, voilà, ouais. Oui, Batman est vraiment dans le fond et il n'est pas vraiment traité de manière centrale dans Year One. Donc,
Mais c'est vrai oui. que c'était une histoire moi qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours voulu savoir qui était l'architecte de la Batcave parce que personne n'est censé savoir où se trouve la Batcave. Donc voilà.
C'est le Joker.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais voilà. Non, mais par contre, d'ailleurs, ce serait drôle, c'est le Joker en fait qui a construit la Batcave et qui a tout planifié pour que Bruce s'installe dedans en fait depuis le début. En fait, c'est un gros foutage de gueule. Non, mais moi, je vais dire franchement, 11 parties, ouais, ça me fait très peur aussi et ça m'intéresse pas plus que ça. En plus de savoir que ça va partir dans les origines encore une fois, bon, je sais pas. Et puis c'est le problème aussi avec Snyder, c'est que c'est toujours assez ambitieux au début. Et puis très vite ça s'effiloche et ça se casse la gueule et les conclusions généralement sont pas géniales. Alors là en plus une conclusion sur un truc qui peut pas avoir trop d'incidence puisque ça se passe dans le passé. Bon
après.
Alors autant je suis d'accord pour Court of Souls, c'est Death of the Family, les conclusions étaient pas incroyables. Black Mirror par contre la conclusion était très bonne je trouvais.
Black Mirror c'était quoi?
C'était dans son premier arc sur
Detective Comics avant relaunch. Ouais.
Oui d'accord mais bon enfin voilà c'était aussi.
Mais
un
depuis
autre
le
temps,
relaunch c'est vrai que ses conclusions sont pas énormes.
Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'on pensait que ça allait être autour du Riddler. Si ça se trouve, on aura peut-être un récit en parallèle qui se passera à notre époque et qu'il se servira d'une partie du récit pour revenir sur le passé. Donc on aura peut-être quand même une narration à deux niveaux. Enfin, je sais pas, on peut peut-être
à mon avis,
ça.
On va aussi entendre parler du fameux frère.
Peut-être.
On va voir des
c'est
choses.
Possible, oui, c'est possible aussi.
Ouais,
mais
bon,
sachant qu'il n'avait pas appris son existence avant Court of the Owls.
Bah justement, on verra peut-être des éléments qui font que tu sais que ça nous paraisse plus logique qu'effectivement il le sache pas quoi.
Ah, du beau petit retcon.
Bah pas vraiment, puisque c'est le seul en enfin non, ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment le seul à en parler de ce frère-là, mais c'était différents univers quoi, différentes terres.
On va continuer toujours sur du Batman avec la reprise par Jimmy Palmiotti et Justin Gray du titre Batwing, qui est le titre qui se vend le moins dans la Bat-Family. Ils arrivent sur le titre, c'est vrai que le titre avait été sollicité comme arrêté au départ, puis finalement on avait appris que ces deux scénaristes-là reprenaient le titre en main. Finalement, ils ont décidé de reprendre en main le titre et de tout changer. C'est-à-dire que ce ne sera plus le même Batwing, ce ne sera plus donc la même personne sous le costume, ce ne sera d'ailleurs même plus le même costume. En gros, ils changent tout et ils espèrent tripler les ventes.
Donc ils sont pas très élevés quand même déjà, mais
ils sont pas très lucides surtout ces gens-là, parce que je suis pas certain que tu puisses tripler les ventes d'un titre pareil. Et en même temps, le principe c'était aussi d'avoir un Batman Black. Donc bon.
Ça, je pense qu'ils vont garder quand même l'ethnicité de Batwing. Enfin, bah, ouais, ça m'étonnerait que ce soit.
Ils ont décidé de vouloir recentrer vraiment sur l'Afrique en elle-même et pas juste un ou deux pays comme ça avait été traité actuellement. D'après leur dire.
Oui, bah, ça reste quand même.
Une grosse tragédie va toucher le personnage principal, David, et il va se passer quelque chose. Ils en disent pas plus. Bon, on comprend à demi-mot que ce sera peut-être un peu comme on a pu voir dans Batman Beyond. Ce serait pas étonnant que David prenne le rôle de celui qui dirige, celui qui va le devenir mentor. Le nouveau Batman.
Honnêtement, là, les designs me font peur. Quand je vois les trucs un petit peu techno des armes.
Il a une armure à la Iron Man, hein, un petit peu l'armure.
Bah, ouais. C'est très proche du Wakanda chez Marvel. Hein. C'est l'Afrique technologique, l'Afrique en avance.
C'est Black Panther, là. C'est Black Panther, clairement. C'est Black Panther en tenue high-tech de Batman. Quoi.
De toute façon, Black Panther n'était qu'un Batman, finalement, au départ.
Oui, c'est ça, oui.
C'est le serpent qui se mord la queue, finalement.
Un Batman Black, quoi, en fait.
C'est donc Blackman.
Je voulais pas m'en passer.
Ouais.
Steve Blackman, qui est un ancien catcheur connu.
Bien rattrapé, bravo. Ouais. Continuons toujours chez DC avec Orson Scott Card, encore une fois. Et oui, on reparle encore de ce scénariste qui nous pond une petite histoire de 8 pages qui fait un débat monstrueux depuis 2 mois. Eh bien, Chris Prowse, le dessinateur de cette histoire, prévue pour l'anthologie Adventures of Superman, a décidé de laisser tomber. Il en a un petit peu marre de tout ce battage médiatique autour du titre et a trouvé que ce n'était pas quelque chose qu'il voulait dessiner. Le battage médiatique n'est pas pour les bonnes raisons. Mmh. Il a décidé d'abandonner le projet. Au final, le premier numéro qui sortira en print, puisque rappelons que c'est d'abord des histoires qui sortiront en digital puis qui seront collectées de façon imprimée dans les comic shops un petit peu plus tard. Ça devrait sortir donc le 29 mai pour le premier numéro. Dans ce premier numéro, on n'aura plus l'histoire de Dorson Scott Card qui sera repoussée à un moment quand ils auront trouvé un dessinateur, donc on ne sait pas quand. Et la sollicitation change, et c'est donc Jeff Parker et Chris Samnee qui feront une histoire. On en aura une autre par Jeff Lemire et enfin une dernière par Justin Jordan et Riley Rossmo. Étonnant, hein, ouais, que ça prenne autant de proportions.
Bah, disons que ça fait polémique auprès des gens qui s'autorisent à penser que ça fait polémique.
Ouais, mais au final, ils ont réussi leur coup, quoi. Parce que du coup, la polémique a tellement enflé que, bah, au final, il n'y aura pas le titre avec Orson Scott Card dans le numéro 1, quoi. Donc...
C'est bien le fascisme de gauche, hein.
Bah, après, l'artiste, on comprend très bien son choix. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être énervant d'être associé à ça et qu'ils prennent plus en compte le côté de. Le dessin, l'histoire, tout ça, que ce soit juste histoire que le scénariste soit un con, quoi.
À part pour ça, on n'a pas parlé de lui. Je veux dire, on savait que c'était l'histoire d'Orson Scott Card, mais je me rappelais même plus que c'était Chris Prowse qui devait la dessiner, moi, perso.
Bah, je savais même pas, moi.
Donc, bon, c'est compréhensible qu'il s'écarte du projet. Hein.
Ouais. On va continuer, on va passer du coup chez Vertigo maintenant avec Scott Snyder, encore lui. On fait que de parler de lui cette semaine. Scott Snyder et Raphaël Albuquerque qui reviennent avec American Vampire, qui rappelons-le est en hiatus, pour un one shot. Sam, je sais que toi c'est ta petite marotte American Vampire.
Mmh. Oui, donc ils reviennent sur un personnage qu'ils ont introduit auparavant dans un des précédents arcs de American Vampire, donc qui normalement sera situé dans les années 50 encore, si ma mémoire est bonne. Un arc qui n'était pas franchement sensationnel. Donc j'espère qu'ils vont un peu nourrir la chose, parce que là, ça sera un one-shot.
Alors, il est prévu que ce soit une histoire encore une histoire de couple, hein, une histoire d'amoureux, mm-hmm. et que ce fameux personnage, Travis Kidd, fera juste une apparition, hein, grosso modo.
Alors ça sera encore moins intéressant.
On ne sera pas centré sur lui. Alors, le scénario est de Scott Snyder, mais sur une idée de Raphaël
Albuquerque.
C'est lui qui, sachant que la série se mettait en hiatus, a proposé à l'éditeur de faire une petite histoire comme ça, un petit peu dérivée.
À voir si les personnages reviendront par la suite.
Oui, bah peut-être. Ouais. Je pense que c'est peut-être un moyen aussi de continuer de faire parler de la série alors qu'elle est en hiatus et qu'elle reviendra que l'année prochaine. Ça arrive le 12 juin, voilà.
Oui, c'est toujours sympathique.
On va continuer avec Marvel maintenant. Non, pardon, excusez-moi, j'ai raté une news. On passe avec...
Une autre série qui est en hiatus depuis des années.
Astro City. Astro City, Kurt Busiek a décidé de relancer Astro City chez DC Proper cette fois-ci. Série qui ne sera pas contenue ni dans le DC New, ni dans la continuité DC, mais qui sera bien publiée par DC. Ça arrive le 5 juin et c'est de nouveau un ongoing.
Mais tant mieux. C'est une excellente série.
Ce sera l'occasion de m'y mettre. Je connais pas Astro City.
Ah, c'est très bien.
Alors, attention,
c'est bien, ouais.
Attention, ce n'est pas un reboot. Ça continuera de l'histoire telle qu'elle avait été entamée à travers les différents volumes.
D'accord. Et il y a énormément de titres à rattraper. Enfin, je veux dire, de numéros.
Non, de mini-séries, je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4 en tout.
D'accord, ça représente 3 ou 4 TPB alors.
Non. Ouais, il y a une série, je crois que c'est le volume 2 ou le volume 3 qui a plus de 30 épisodes. Hein.
D'accord. Ah oui, c'est quand même.
Ouais,
déjà...
ouf, hein.
Tu dois avoir une cinquantaine d'épisodes au total sur Astro City.
D'accord, ok.
Non,
oui, donc,
beaucoup moins. Ça a été mis en hiatus à plusieurs reprises, donc je n'ai pas le souvenir qu'il y ait autant d'épisodes.
Il faudrait vérifier, mais j'en suis quasiment sûr.
Mais moi, je sais pas, je trouve que ça fait quand même un petit bout de temps, donc reste à voir si la qualité sera toujours la même.
La dernière publication d'Astro City datait de 2010, à la fin du label Wildstorm.
Bon, ça va encore, c'est pas si vieux.
Allez, on va passer.
Ouais,
bah, pardon,
a priori, oui, c'est ça. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'étais en train de regarder. A priori, il y a plus de 8 TPB déjà quand même sur Astro City. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de numéros.
Pas mal étaient sortis en français, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a peut-être moyen d'en trouver. Peut-être pas tout. Je sais plus, donc il faudrait vérifier. Mais voilà, il y a peut-être moyen d'en choper certains en français, en tout cas. On va passer maintenant à Marvel et on commence. Alors, on vous en avait parlé la semaine dernière, le retour de Joe Madd sur du Wolverine. On a eu un deuxième teaser du même ordre qui s'appelait cette fois-ci Get Wells et c'est donc en juin 2013 l'arrivée, enfin le retour de Zeb Wells sur Spider-Man. Et on a appris finalement que ce serait la suite de la série Savage Wolverine, donc série de Frank Cho qui finalement ne sera resté que 5 épisodes pour un arc, à voir s'il reviendra plus tard. L'arc suivant sera donc scénarisé par Zeb Wells, dessiné par Joe Madureira avec Wolverine, Spider-Man, mais aussi Elektra.
Intéressant de constater qu'un arc qui était destiné à Avenging Spider-Man va finir dans Wolverine.
Ouais, ça fait un peu genre il faut boucher le trou parce qu'il n'y a pas de scénario.
Voilà, on n'a rien prévu, on a juste prévu l'artiste et puis finalement il nous lâche après 5 épisodes, ce qui était archi prévisible, mais c'est pas grave.
Bah, non, mais
il
c'est
lâche
ça,
peut-être pas complètement, mais.
Ce titre Wolverine, c'est juste histoire de vendre des caisses de comics sans histoire. C'est-à-dire qu'on place des artistes qui ont le vent en poupe et qui sont bien connus. Et voilà. Enfin,
c'est l'équivalent du Avenging Spider-Man, mais côté Wolverine, en fait.
Ou du Avengers Assemble.
Voilà. Ouais.
Voilà. Alors, la raison officielle a été donnée. On n'avait pas envie de perturber Avenging Spider-Man avec Chrisios, puisque c'est le supérieur Spider-Man. Apparemment, ce ne sera pas le supérieur Spider-Man dans Savage Wolverine. En tout cas.
Ah, donc ce sera lisible.
Donc, en tout cas, à demi-mot, c'est ce qu'ils essayent de nous faire comprendre, puisqu'ils nous disent on n'a pas envie de déranger supérieur Spider-Man. Là, c'est quelque chose de différent. Donc bon, on peut comprendre que c'est...
pas plus que mal parce que Chris Yost fait du bon boulot sur Avenging et j'aurais été un peu déçu que quelqu'un d'autre vienne dessus.
Donc, à partir du numéro 6, en juin, on ne sait pas si Frank Cho a lâché la série ou si c'est simplement qu'il a des problèmes avec les deadlines. Hein.
Non, mais je pense qu'il a fait 5 épisodes et puis voilà, son arc faisait 5 épisodes, terminé.
Bah, il reviendra après, il a...
Non.
Il a dit qu'il voulait faire des scénarios avec des robots, avec des machins, enfin.
Savage Wolverine va disparaître au numéro 15 et quelques.
Il avait plein d'idées dans le numéro 1.
En tout cas, ça nous permettra de revoir Zeb Wells, qui s'était absenté de la scène comics depuis quelques temps, puisqu'il dirigeait la série de Robot Chicken, la saison actuelle. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus dans les comics actuellement. Voilà, on continue avec une news importante, la méga news de la semaine. C'est que Age of Ultron va avoir une superbe importance, tellement énorme. Et la preuve en est, puisqu'on a eu la sollicitation du numéro 10. Et les dernières pages d'Age of Ultron seront dessinées par Mr. Joe Quesada. Alors si le chef de Marvel
lui-même
si le chef de Marvel vient dessiner les dernières pages, c'est que ça doit avoir de la gueule.
Non, c'est donc on l'aura d'ici 2018 en fait.
Ah non, c'est prévu pour juin 2013.
Et si j'ai bien compris, ils sont que 3 ou 4 à connaître la fin. Juin 2013.
Ouais. Alors, ce sera partagé entre Carlos Pacheco, Brian Hitch et Joe Quesada. Joe Quesada se gardant les toutes dernières pages avec.
Voilà, avec Mephisto. qui ressuscite tout le monde en faisant un deal avec Wolverine qui lui dit: écoute, gars, t'as cassé un mariage, moi je te propose encore mieux, tu me retires mon pouvoir auto-guérisseur et tu ressuscites tout le monde. Et Mephisto il fait: allez, ça me fait bien marrer.
Mais si à Mephisto, franchement, Joe Quesada sera définitivement rangé en dessinateur de Mephisto. Point.
Mais peut-être que ça le fait marrer, hein. Enfin, non, mais c'est même pas ça, c'est pire que ça, c'est en dessinateur de Deus Ex Machina tout pourri.
Alors, le dernier passage de Joe Quesada sur des pages intérieures datait du Amazing Spider-Man 641 en 2010. C'est la dernière partie de One Moment in Time. Et c'était franchement super mal dessiné. Honnêtement, enfin, pour du Joe Quesada, c'était pas du Joe Quesada grandiose, quoi.
Moi, c'était le gars qui voulait se débarrasser de ça et oublier.
Alors que pourtant, quand il fait des covers, elles sont très belles, mais les pages intérieures étaient franchement très moches. Donc j'espère qu'il aura récupéré son talent qu'il avait fut un temps, parce qu'il avait quand même un sacré coup de crayon à une époque.
Mais il avait tout fait par ordi, au fait. Il avait pas dessiné.
Mais tout le monde dessine sur ordi maintenant.
Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, voilà, quoi. Avant, il se faisait vraiment des planches à la main, totalement. Et puis voilà, ça avait une autre tête, quoi. Ça avait un autre cachet.
En tout cas, je rappelle que d'après la sollicitation, personne ne verra cette fin venir. Hein. Attention.
Oui, bien sûr.
Attention. Donc, on sort l'argenterie, là, la grosse artillerie lourde, tout. On a mis tout. C'est Joe Quesada qui dessine, donc ça va déchirer.
En fait, ils sont sur l'île de Lost, je pense, hein, avec Ultron.
Avec Ultron.
En fait, ils sont morts depuis longtemps et
exactement.
Ils sont au purgatoire.
C'est ça.
Moi, j'ai envie de dire vivement le mois de juillet qu'on soit débarrassé de ça.
Ah, c'était pas mal le premier numéro, donc on va dire que peut-être qu'on aura une bonne surprise.
Oui, mais tu vois, on en discutait hier soir avec Benny, et comme je disais, le problème, c'est que même si le premier numéro est très bien, je pense que c'est le côté assommoir avec 3 épisodes qui sortent par mois. À mon avis, je pense que ça va vite me gonfler.
Enfin, moi, personnellement, le premier numéro, en attendant, je l'ai lu, et oui, bon, c'est sympa, mais sans plus. Ça m'a
moi,
pas...
c'est sympa.
Faut peut-être éviter de se noyer avec tous les tie-ins, par contre.
Voilà, mais déjà, 3 épisodes par mois, pour moi, c'est trop, quoi. Mais bon, après.
Non, moi, je trouve.
Moi, c'est vite expédié.
Comme c'est du Bendis, ça va décompresser, donc il vaut mieux avoir plusieurs épisodes.
Allez, continuons chez Marvel. Une nouvelle série Daredevil est annoncée. Ça se rappellera Daredevil Dark Knights. C'est une mini en 8, et ce sera une série d'anthologie. Une série anthologique, quoi. C'est-à-dire plein de petites histoires. Le premier numéro, il y aura 3 histoires dessinées et écrites par Lee Wicks, qu'on n'avait pas vu depuis hyper longtemps. Et voilà, donc Axel Alonso a expliqué qu'ils avaient envie de refaire une série anthologique et que ce Daredevil se prêtait bien à ça. On verra tout un tas d'artistes et de dessinateurs passer. Tous n'ont pas été sollicités pour le moment. Mais c'est plutôt pas mal, quoi.
Lee Wicks, on l'avait vu sur Amazing Spider-Man, Brand New Day, quoi.
Ouais, bah ça commence à faire un moment. Hein.
Ça commence à faire longtemps, ouais. Ça fait quelques années, quoi. 3 ans au moins.
C'est une série qui vous intéresse, Bruno, Sam?
Pourquoi bah, c'est pas du Mark Waid, donc oui.
Pourquoi pas? Une petite anthologie en 8 numéros.
Moi, pas du tout, par contre. Les anthologies, je suis pas du tout fan, à part sur des trucs qui sont à la base des petites histoires. Comme les histoires horrifiques, etc. Mais c'est à la base comme ça. Mais faire d'une série avec un personnage mainstream une anthologie, moi ça m'a toujours saoulé. C'est pas du tout ma cam.
Chez DC, Legends of the Dark Knight, c'est pas mal, hein, dans le genre. Donc, pourquoi pas.
Voilà, j'ai détesté.
J'attends de voir les titres, enfin les auteurs qui vont être dessus. Quoi.
Très bien. On m'a aussi appris que Sarah Piccelli, elle est dessinée Guardians of the Galaxy.
Ouais, ça c'est plutôt cool, parce que elle a un bon petit trait de crayon, et puis faire du coup du 616. Donc après c'est vrai que ça veut dire que Steve McNiven va pas faire tous les numéros, mais bon...
Il fera le premier arc.
Oui, non, mais elle dessine qu'un arc. Hein.
Ouais. Mais du coup, si...
Non, mais je pense qu'ils travailleront en...
S'ils alternent en tandem tous les deux,
voilà,
ça sera vraiment une série qui, graphiquement, déjà, va déchirer, quoi. Donc.
Comme Chris Bacalo et Fraser Irving sur une X-Men.
Moi, elle m'a plus impressionné sur Spider-Man que ce qu'a fait Steve McNiven pour le moment sur Guardian. Hein.
Bon, enfin,
ouais,
Guardian
donc,
n'a qu'un numéro,
on a
donc.
Vu que le 0-1, 0 points, et puis franchement, moi j'avais trouvé ça plutôt bien dessiné. Hein. Mais ouais, non, c'est deux artistes vraiment solides, donc ça fait plaisir.
Il faut dire qu'il faut des relais. Hein. Si Marvel nous le sort encore à 2 ou 3 numéros par mois, effectivement, il va falloir des relais. Hein. C'est obligé. Mm. Allez, on va continuer avec l'indé maintenant. On commence avec Avatar, des news de la ICCC dont on avait parlé la semaine dernière. Et tout n'était pas tombé. On n'avait pas eu tous les rapports de convention. Avatar a aussi fait quelques annonces lors de la Emerald City Comic Con, avec le retour de la série de Gage sur Absolution, une suite à cette mini-série qui s'appellera Absolution Rubicon. Je ne sais pas si l'un de vous avait lu cette mini qui avait été publiée en France aussi.
Du tout.
D'accord. En tout cas, il revient, quelque chose de très violent. On est chez Avatar, en même temps, on peut tout se permettre. On nous a teasé aussi une suite Gage qui va aussi écrire un arc en 4 parties sur Crossed Badlands. Des épisodes que tu lis, toi, Benny?
Oui, enfin, ça dépend des arcs, en fait, puisque c'est à chaque fois des arcs différents par différents auteurs. Mais c'est cool de voir que Gage va s'essayer à ça. Je sais pas s'il en avait fait déjà.
Non, je ne crois pas.
En tout cas, j'en ai pas lu de écrit par Gage jusque-là. Et tant mieux. Tant mieux.
Il décrit son histoire comme quelqu'un de non infecté qui ferait un espèce de pacte avec un Crust.
Ok, bah ouais, ça peut être pas mal. De toute façon, franchement, cet univers est très riche en saloperies multiples et variées. Et,
ouais, de tout genre, ouais, ça c'est clair. Garth Ennis a confirmé aussi qu'il continue de travailler sur l'adaptation live en webisode de Crossed et que c'est prévu pour la fin 2013.
Bon,
à voir.
Là par contre, voilà.
Bah, ce sera des webisodes, donc ils seront pas tenus par une chaîne de faire quelque chose de peut-être moins violent. Faut voir.
Ça va être immonde, hein, je pense.
Faut voir le budget, hein, parce que ça peut être très kitsch et série B, quoi. S'il y a des effets spéciaux pourris.
Et c'est ça. Voilà.
Et la news qui va faire trembler tous les fans du monde entier, Alan Moore a décidé de venir enfin faire la suite de Neonomicon.
Alors ça, je m'en fous complètement, tu sais, je sais même plus ce que c'est Neonomicon. Par contre, tu m'aurais dit Alan Moore décide de venir enfin, je sais pas, au LCF, là j'aurais dit ah oui, en effet, oui.
Mais Alan Moore ne se déplace pas, ou alors pour un énorme cachet.
Puis de toute façon, il chie sur les comics. Donc
Neonomicon, c'est quoi déjà? Rappelle-nous, parce que moi je sais plus.
Bah c'est quelque chose qu'il avait fait il y a de ça quelques années. Tout le monde attendait une suite puisqu'il y avait une fin assez assez ouverte. Il revient et ce sera dessiné par Jason Burroughs, que quand même un habitué d'Avatar aussi.
On en avait parlé à un moment.
Tout le monde, ceux qui l'ont lu quoi.
Possible suite justement.
Bah, y a énormément de gens qui suivent quand même Alan Moore encore. Donc un travail d'Alan Moore aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez rare. Voilà. Alors pour le moment pas de date annoncée, mais en tout cas c'est dans les projets.
Moi, je pense qu'il va reprendre Astérix bientôt.
Avatar continue donc de faire parler de lui. On continue avec des choses toujours aussi graphiques, enfin même si là, on va rester du côté de la comédie. C'est chez Dynamite. Fred Van Lanty va faire une série de zombies chez Dynamite. Bon, il s'était déjà essayé au genre avec les Marvel Zombies.
Ouais, c'était pas top.
Et donc c'était une série qui avait été teasée sous le nom de It's a Mad Mad Zombie World. C'est une zombie. Il avait décrit ça comme une zombédie, une comédie de zombies.
Zombida.
Finalement, le titre a été changé et ça s'appellera The Mocking Dead.
D'accord.
Ah oui,
bah, pourquoi
là,
pas.
Là, oui.
Hein, autant surfer sur le succès de Walking Dead pour en profiter, quoi. Mais ça, zombie et humour, on n'a pas trop eu ça en comics, donc pourquoi pas.
La série sera dessinée par Max Dunbar, qui a récemment fait Red Sonja Atlantis Rises, la mini-série
Red Sonja.
La mini-série qui était sortie chez Dynamite. Et alors, le plot, ce sera basé sur une invasion de zombies, justement, et le gouvernement qui, pour prévoir ça, avait dépêché une équipe qui devait préparer des défenses. Voilà, grosso modo, à peu près le plot. On verra ce que ça va donner.
À mon avis, ils surfent quand même beaucoup sur la parodie du coup de Walking Dead, parce que le titre, forcément, il fait penser, alors qu'avant, on pouvait pas imaginer que ce serait forcément une parodie de Walking Dead.
Oui, bah voilà, ils ont changé le titre, je pense, pour justement accentuer ce côté parodie. Continuons du côté parodie, justement, de zombies, avec Roberto Aguirre Sacasa qui revient dans les comics, après avoir longtemps abandonné les comics pour s'occuper de Glee. pas forcément une référence, ou de musique, de comédie musicale, hein, comme Spider-Man Dawn of the Dark, c'était lui.
Ah bah bravo.
C'est pas non plus une référence. Hein.
Ou après avoir écrit le scénario du remake de Carrie, ça c'est lui aussi. Qui n'est pas encore sorti.
Eh
hein,
ben.
Hein. Donc il a fait beaucoup de choses, en fait.
Non, mais oui, il fait, oui, voilà, il fait plein de choses différentes.
Multifonction, quoi, le Quesada. Le Quesada, le Sakaza.
Et donc, il revient cette fois-ci chez Archie, après le crossover Archie meets Glee.
C'est... Il y a eu un crossover Archie qui rencontre
Glee. Oui, voilà, écrit par Roberto Aguirre Sacasa, justement.
Ça fait un peu peur quand même. Hein.
Eh bien, il revient avec un ongoing qui arrivera en fin d'année. Ça s'appellera Afterlife with Archie, et c'est une invasion de zombies à Riverdale, la ville où il y a Archie.
Bah voilà, c'est dommage de s'en priver. Bah ouais.
Ouais.
Mais non, mais moi j'ai trouvé ça tellement too much. Je sais pas, j'ai l'impression que Archie essaye de rattirer un nouveau public vers lui.
Il y aura Kiss qui se battra contre les zombies, contre Archie et tout.
Ça va être la ouais, mais enfin, ça fait beaucoup surfer sur la vague encore Walking Dead. En fait, c'est ça le problème, quoi. C'est que il y a quelques années, ça aurait été original, mais maintenant, dès que tu mets des zombies quelque part, tu penses forcément à Walking Dead, puis ils essayent de copier un petit peu le principe et de surfer sur la vague zombie, donc bon.
Alors, le deuxième arc, on nous le tease déjà, il s'appellera Betty or IP.
Ah ouais.
Oui, en plus, ouais. Oui, ben, après Batman Rip et le récent qu'on a eu là, voilà, ça va être elle.
Oh ben voilà, je trouve ça marrant que même la compagnie Archie Comics, qui fait pourtant des publications pour tous âges, a tendance à vouloir se diversifier et essayer d'aller taper là où ça vend.
A tendance à vouloir gagner du pognon.
Oui, ben, taper là où ça vend. Et pourtant, en fait, Archie vend énormément. C'est juste qu'il n'est pas forcément bien géré dans le circuit Diamond, puisque Archie est quand même un des seuls comics aujourd'hui qui est encore vendu dans les Toys R Us aux États-Unis.
Et dans les kiosques.
Donc, et dans les kiosques aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de ventes, mais elles ne sont pas prises en compte quand on fait les tops des ventes. On continue avec de l'indé toujours. Cette fois-ci, de l'ultra indé, comme l'ultra HD, mais en indé. Oui, j'avais pas meilleure vanne, hein, je suis désolé.
Non, mais c'est pas mal, t'as tenté.
Voilà, j'ai tenté le truc. Comixology annonce qu'ils ouvrent leur store à la publication, à même l'auto-publication de petits comics qui ne sont publiés par personne. On pourra directement soumettre les projets à Comixology, ils seront étudiés gratuitement, et si ils passent le projet d'étude, eh bien, ils seront adaptés directement avec le Guided View et ils seront disponibles sur le store et les créateurs toucheront directement l'argent.
Bah c'est, on va dire que c'est une bonne initiative quand même pour permettre à des auteurs indés de diffuser leurs travaux. Après, j'espère qu'ils ne se font pas trop arnaquer au niveau des droits et tout.
Alors, j'ai pas trouvé au niveau des droits comment ça allait se passer encore. Bon, j'ai pas non plus des masses cherchées, je l'avouerai, parce que j'ai pas eu tout le temps que je voulais, mais j'ai pas trouvé, mais je pense que bon, c'est quand même mieux que ne pas être publié, quoi qu'il arrive.
Ouais, voilà, non, mais c'est un petit peu le principe des artistes qui vont être connus grâce à YouTube. Voilà, bon, bah maintenant, les artistes comics, s'ils peuvent être connus grâce à Comixology, pourquoi pas?
Bah, c'est bien, c'est que apparemment il n'y a pas de restriction de pays, ce qui fait que même les gens en France qui auraient envie de s'essayer aux comics ou qui ont des idées, des scénarios, qui ont même déjà des trucs de prêt mais qui ne trouvent pas d'éditeur, pourront peut-être soumettre leur création à Comixology et être publiés directement sur Comixology et donc toucher le monde entier. Pour peu que ce soit en anglais, bien sûr. Donc je sais pas, bonne initiative, je trouve.
Ouais, bonne initiative, ouais.
Peut-être aussi, peut-être aussi un moyen pour Comixology de combattre, entre guillemets, tous ces projets Kickstarter qui se généralisent, hein, finalement, de semaine en semaine. On a énormément de projets et c'est quelque chose qui ne rentre pas dans leur poche.
Parce que Comixology, ils auraient dû faire un truc à la My Major Company, en fait, pour la musique. En fait, ils devraient faire un truc comme ça pour les comics.
Bah, là, en tout cas, chacun pourra s'essayer à envoyer ses trucs et puis être analysé et vérifier si ça passe ou pas, quoi, si c'est accepté ou pas.
Mais ce qu'il faudrait faire, c'est un système où les fans puissent justement zioter et éventuellement soutenir ensuite tel ou tel projet. Ce serait intéressant.
Ça, je sais pas, par contre. Ça, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas...
Après, en fonction du nombre de téléchargements, Ça, les gens sauront si oui ou non ça vaut le coup de continuer à dessiner, quoi.
Oui, c'est clair. Après, ça peut être des one shots, ça peut être des séries régulières, tout est ouvert, quoi, de toute façon.
C'est plutôt cool.
Continuons avec une news un petit peu triste. On a appris cette semaine, Mike et Laura Allred se sont fait cambrioler. Ils étaient absents de leur domicile pendant une semaine, ils étaient partis en Arizona, et à leur retour, ils ont trouvé leur maison complètement vandalisée, leurs ordinateurs ont été volés. C'est quelque chose d'assez... assez triste,
ça, c'est pour
finalement.
Expliquer le retard qu'il y aura sur FF, c'est ça?
Bah, en fait, il explique, Michael Red explique que
pas de chance, ouais.
D'un côté, ça tombe bien, parce que c'est pile poil au moment où Joe Quiñones le remplaçait.
Mais je crois que sur un numéro ou deux, même pas, quoi.
Ben voilà, mais il faut quand même essayer de se remettre, quoi. Et le fait d'avoir perdu leurs ordinateurs, ils ont quand même perdu tout le matos qu'il y avait dessus, quoi.
Ouais, ça craint, ouais. Non, franchement, c'est triste. Après, c'est des auteurs qui, en fait, avaient publié des photos de leur maison sur des sites internet, je crois sur CBR, sur Newsarama, je sais pas, ils avaient participé à un dossier sur les maisons d'auteurs. Ça peut donner peut-être des idées. Je sais pas si c'était vraiment ciblé ou un truc au hasard.
Le truc datait de 2007, quoi. Le dossier datait de 2007, quand même.
Ça peut peut-être donner des mauvaises idées, quoi. Donc.
De toute façon, Steve, tu vas leur rendre ce que tu leur as pris. Hein.
Oui, bien sûr.
À l'enregistrement.
Mais ouais, non, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est triste pour eux.
Non, mais ouais, voilà. Enfin, c'est surtout que la maison est complètement vandalisée, apparemment. Tout a été renversé, tout a été cassé. Enfin, c'est... Voilà, c'est dommage, quoi. Quand ça touche tout le monde, enfin, ça peut toucher n'importe qui, le cambriolage, c'est sûr. Mais là, bon, ce sont des gens, en plus, qui sont adorables. Enfin, ils méritent vraiment pas ça, quoi. Alors qu'il y a quand même des belles ordures qui mériteraient bien qu'on leur bousille leur baraque. Hein?
Non,
des gens qui ont fait des détournements de fonds, par exemple.
On peut pas dire ça.
Oui.
Oui, d'accord, oui.
N'est-ce pas, Benny?
Ah bon?
Oh, bah oui,
j'ai fait des détournements de fonds et on mériterait qu'on bousille ma baraque?
Bah oui, parce que tout ce que t'as acheté, c'était avec des détournements de fonds, on le sait très bien.
Ouais. Pour peu que les gens te croient, dis donc, je vais avoir des problèmes.
T'es pas dans la merde.
Allez, continuons très vite. La partie procès, la partie tant attendue de l'émission.
Ma spécialité, Steve.
Ouais, non, on va faire très vite. Un juge fédéral a débouté vendredi la demande de décès d'être indemnisé par rapport au fait que Marc Toberoff n'avait pas communiqué toutes les pièces à l'époque du procès Superman, le premier procès qui avait été rejeté en appel. Il s'était rendu compte qu'il y avait certaines pièces qui avaient été obtenues illégalement, des pièces de chez DC. Et DC essayait de se faire dédommager et le juge fédéral a débouté leur demande. Histoire d'arrêter ces histoires un petit peu de procès. De notre côté, c'est la semaine prochaine, enfin en tout cas cette semaine-ci là, que va se tenir la première audience concernant le procès de Stanley Media par rapport à Disney.
Ouais.
Bon bah, dès qu'on aura plus d'infos, on vous les communiquera, mais je pense que ça va être comique. J'espère qu'ils vont se faire débouter leur race.
Tu m'étonnes.
Allez, on passe au top des ventes maintenant, c'est la spécialité de Sam, je vais te laisser faire Sam, et moi je me repose.
Oh, Steve, quand même.
Moi, je viens de parler pendant 40 minutes.
Ça veut dire que Sam, il est pas prêt du tout et qu'il a pas les chiffres.
Oh.
Oh, Steve,
comment t'as deviné?
Oh, mais mince. Oh, mais
alors,
qu'est-ce que je viens pour
l'immense, avoir l'immense surprise, on peut le dire, du mois de février, c'est le numéro 1, qui est Justice League of America.
Ouais.
Qui n'avait que 52 couvertures variantes. Mais comment est-ce possible qu'il ne soit que premier?
Alors, d'après DC, qui ont quand même fait un communiqué de presse, parce que oui...
Pour dire comment qu'on est fort, regardez comment on a vendu tellement de comics.
Il y a 14 covers d'État qui sont sold out. Voilà.
Ouais, c'est pas mal quand même. Hein.
C'était l'info de la semaine.
Donc, numéro 1 avec 307 000 ventes. C'est quand même le petit record de l'année, je pense. On est qu'au mois de février aussi.
Là, je sais pas s'il y aura des projets qui vont dépasser les 300 000 ventes cette année.
Ah, ça va être futur crossover Marvel, je sais pas. Là.
Moi, je trouve ça vraiment dommage puisque c'est un numéro 1 qui, à mon sens, mérite pas quand même un chiffre aussi astronomique.
C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal.
Bah, y avait
oui,
quand
mais
même
enfin,
encore
de là,
pas mal
de là
à
faire
numéro
300
1.
000, si ça c'était pas mal et que ça mérite 300 000, il y en a certains qui méritent à ce moment-là
bah,
600
non,
000.
Mais c'est pas que ça mérite 300 000, c'est juste qu'il y a beaucoup de covers et c'est tout.
Oui, non, mais voilà, c'est ça. Parce que l'histoire en elle-même, excuse-moi, mais oui, c'est peut-être sympathique, mais ça va pas au-delà, quoi.
Donc on avait aussi les nouveaux lancements de séries, encore chez DC et chez Marvel. Chez Marvel, on a le numéro 1 d'Uncanny X-Men, qui a atteint quasiment les 180 000 exemplaires pour son premier numéro. Bon, qui se casse la gueule, hein, dès le 2. Donc,
Normal. Voilà.
Voilà, comme d'habitude, hein, il perd 50% dès le 2. On a le lancement de Nova, qui commence à 80 000 exemplaires, ce qui est quand même un petit record. On sent ici l'influence des nouveaux créatifs. Idem pour le Guardian of the Galaxy 0.1, qui s'est quand même vendu.
Bah oui, enfin
Faut quand
c'est
même le
normal hein,
dire.
que ce soit vendu. En même temps, c'était teasé déjà depuis le Point One qu'on avait eu en octobre.
Bah, les créateurs vendent aussi, hein. Bendis, McNiven, voilà,
Oui, et puis de
ça
l'autre
fait
côté, on
vendre.
a Jeff Lobb et Ed McGuinness. C'est normal que ça se vende. Moi, j'aurais pensé que ça serait vendu un petit peu plus, honnêtement, mais.
En même temps, Nova, voilà, c'est pas un personnage très très populaire non plus.
Oui, mais il a gagné en popularité, rappelons-le, avec le
Avec le
dessin
dessin animé.
animé Ultimate Spider-Man. C'est pour ça que
Secret Avengers
moi
aussi
j'aurais
fait
pensé
un
à
bon
plus,
score,
quoi.
pardon.
Ouais, mais enfin, je pense, je sais pas si les gens qui regardent Ultimate Spider-Man, ça va être quand même des gens relativement jeunes, lisent déjà
Bon, oh, ça
ces
va,
comics-là.
c'est bon, moi aussi je la regarde, hein.
Mais justement, mais je
Mais
suis en train de dire que t'es très jeune.
c'est pas forcément un
dans ta
compliment.
tête.
oui, Bruno, tu citais Secret Avengers,
Non,
effectivement, ouais,
oui, bonne surprise, hein,
qui se
que
classe dixième du
85 000.
top, ouais.
Ouais, faudra m'expliquer, hein.
Ah non,
Mais non,
c'était très bon.
c'est très bien.
C'était l'une des
C'était
meilleures séries, l'un des meilleurs
pas...
numéro 1 du Marvel
C'était
Now.
pas mal du
Moi,
tout, mais
j'ai toujours pas
c'était...
compris ce qu'il y avait de bien là-dedans.
C'était pas mal, mais c'était
Tout.
pas une grosse équipe créative derrière. C'est quand même pas deux noms très connus, que ce soit le dessinateur ou le scénariste. Donc
Ah bah
oui,
Nick
donc quand même un
Spencer, je crois,
bon...
non?
Ouais, mais quand même, c'est 80 000 exemplaires, c'est quand même pas mal du tout.
Vous remarquerez, hein, cher auditeur, qu'il n'y a aucune série où tout le monde est d'accord. Aucune.
Oh, est-ce qu'on pourrait pas en trouver une?
Ah,
Bon,
mais si, il y en a.
je sais
Si,
pas.
il y a Justice League of America Vibes et Katana, donc ils sortaient leur premier numéro 1 et qui commence en dessous de 27 000
Alors,
exemplaires.
je vais m'arrêter là-dessus. Donc, ils sortaient leur premier numéro 1. C'est-à-dire que
Ouais.
il faudrait
Bah, il y a eu des
qu'effectivement il y
séries
ait.
Vibes et Katana avant,
Oui, leur premier numéro 1 nous fit tout, mais oui, c'est en fait, c'est le premier numéro 1, comme s'il y allait avoir plusieurs numéros 1, en fait.
Non, mais il y aura pas de reprint, je pense, mais bon.
Non, c'est clair que
Non,
27 000
m'étonnerait.
exemplaires, c'est un gros, gros four pour DC. Deux numéros 1 qui sortent à peine 27 000, qui se classent, je ne sais plus, 100 et quelques du top.
78e et 80e.
C'est quand
C'est pas
même
terrible.
largement, largement pas bien.
Bah oui, mais
Sachant que c'était des titres vendus à 3 dollars.
faut arrêter de sortir des titres pareils, quoi. C'est pas du tout, vulgairement, c'est pas du tout bandant comme titre. C'est pas vendeur. Ce qu'on veut, c'est du Booster Gold, du Justice League International, du, je sais pas, un truc que les
C'était
gens
pas beaucoup
connaissent.
vendu, hein, Justice League International.
On a trouvé des numéros 1 qui sont moins vendus, hein. On a par exemple Alpha Big Time, le premier numéro de la mini-série Alpha, qui s'est vendu 22 000 et qui est 93e. Ou
Pourtant,
encore.
Alpha, pour moi, c'est la relance, c'est la relève, quoi. C'est le.
Ou encore, toujours dans les gros, hein, puisqu'après on compte pas les indés, c'est quand même un marché différent. On a le premier, enfin, le one shot Young Romance qui ne s'est vendu qu'à 20 000 exemplaires.
Ouais, mais c'était
Et
8 dollars quand même.
n'ayez pas de grand espoir dans Threshold, puisque dès le numéro 2, il passe au 109e rang et sous la barre des 20 000 exemplaires.
Ouais, ça c'est triste, hein. Dommage.
Phantom Stranger aussi, au numéro 5, est en dessous des 20 000. Enfin, ça va pas durer longtemps, je pense. Hein.
Alors, pour Threshold, on a appris aussi ce qui allait remplacer Larfleeze dans les backups. C'est un personnage qui s'appelle Star Hawkins, qui est un détective privé, mais qui était basé dans le futur, en tout cas dans les histoires de DC des années 50 et 60. On l'avait revu plus récemment où il s'était fait tuer par Jim Starlin, et il apparaissait dans une histoire et il mourait. Mais enfin voilà, je sais pas trop comment va faire Keith Giffen pour réutiliser ce personnage-là, déjà si la série va jusqu'au sixième, du coup.
Ce serait un miracle, hein. Je pense que si ça atteint le numéro 7.
Non, mais si ça ira jusque-là, puisqu'il n'y aura pas d'autres vagues d'annulation d'ici là, mais je sais pas trop comment ils vont réutiliser le personnage, puisque bah ça c'était quelque chose qui se passait en 2100 et quelques. Alors à moins qu'ils nous fassent vraiment une histoire dans le futur, mais c'est enfin pour le moment. À part une série dans le passé avec Demon Knights, tout le reste est dans le présent, quoi. Donc ce sera
Il y a
sûrement.
Legion aussi qui est quand même
Ah
dans le
oui,
futur.
Legion. Oui, j'oublie cette série, c'est bizarre.
Mais tout le monde oublie cette série.
Bah bon, un top classique, hein, j'ai envie de dire. À part quelques numéros 1, voilà, qui se placent là, comme Justice League of America ou Uncanny X-Men. Bon, là, un top classique, hein, du Batman Justice League, Superman Spider-Man qui se maintient quand même.
Qui se maintient bien, hein, au niveau, hein, quasiment aux alentours des 100 000 exemplaires. Donc,
Alors qu'il y a eu deux numéros au mois de février, le 3 fait 101, le 4 fait 95, c'est plutôt pas mal hein, quand même.
Oui.
Étonnant, bah, pari réussi pour Marvel, j'ai envie de dire, puisque Amazing Spider-Man vendait dans les 60, à peu près.
Quasiment 55-60.
Donc bah, il y a eu quasiment un doublement du lectorat.
des gens qui attendent que ça redevienne comme avant.
Oui, mais enfin, quand t'attends, à ce moment-là, t'achètes pas. Sinon, on retrouve du Uncanny Avengers, du Detective Comics aussi dans le top. Voilà, les séries classiques. Du côté des graphic novels, Sam.
C'est le titre de. Je crois que c'est de Alan Moore, hein, le truc Nemo. Comment ça s'appelle?
Art of Ice.
Nemo Art of Ice, donc qui se vend à plus de 10 000 exemplaires. Donc on voit que. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Alan Moore fait quand même vendre.
C'est publié chez Top Shelf. Je sais pas si c'est du Alan Moore. Enfin, moi, je sais même pas ce que c'est, honnêtement. Ce
il me semble, hein. Il me semble. Il me semble avoir lu que c'était du Alan Moore.
Oui, oui, c'est Alan Moore.
La suite du top, c'est du Batman.
Du Batman, du Adventure Time. Tu seras ravi de l'avoir.
Oui, Adventure Time Volume 2, qui se classe 3e du top. 6200 exemplaires. Bon, ce sont encore des chiffres estimatifs. Hein, on attend d'avoir les véritables chiffres. Le Batman, oui, précisons ce que c'est quand même. C'est un hardcover. C'est le Night of the Owls en hardcover. Qui s'est placé deuxième.
$30 hein, quand même.
Ouais, $30. Et il s'en est écoulé 8300. Plutôt pas mal. Enfin, le quatrième, classique.
Walking Dead.
Walking Dead, volume 1. Encore une fois. Et qui revend encore presque 6000 numéros ce mois-ci. À croire que les chiffres sont truqués, c'est pas possible, quoi.
Ouais. Ah, ça marche bien. Non,
mais... ouais, enfin, le portefeuille de Robert Kirkman vous remercie.
À force, ça baisse quand même un petit peu.
Non, mais attends, tous les mois, t'as entre 4 et 6 000 personnes qui achètent le volume 1.
Ouais.
Je veux dire, il n'y a plus personne qui ne va pas l'avoir chez lui, quoi. C'est pas possible.
Sachant
les gens
que
s'en servent pas qu'ils chiottent,
quoi. Tu as le compendium Walking Dead qui est 12e avec quasiment 3 000 exemplaires pour un truc à $60.
Ouais, mais je connais des gens encore qui s'y sont pas encore mis à Walking Dead, donc mine de rien.
Et des gens qui ont arrêté comme moi.
Ouais, pour le compendium, c'est quand même une très bonne vente, hein. $60, presque 3000 exemplaires sur le mois.
C'est vachement bien quand même. C'est
super rapport qualité-prix. Hein.
Ouais.
Oui, en plus, mais c'est vrai que sortir $60, faut se dire qu'il y a quand même quasiment 3000 personnes qui ont sorti $60 au mois de février pour acheter ça.
Il est pas dégoûtant non plus, quoi. C'est pas comme l'espèce de livre abominable qu'ils avaient fait sur Tintin là, il y a quelques années, là, qui était en papier à cigarette. Donc voilà, là au moins c'est pas mal du tout. Mm.
Cinquième du top, on retrouve Saga. Ensuite, en sixième, Batman The Black Mirror, qui vend encore.
Ouais. C'est le TPB, c'est
vrai. Qui est ressorti, ouais, en souple.
Et puis, Catwoman Volume 2, qui se classe septième.
Qui sort en France ce mois-ci.
Batgirl Volume 1 est neuvième. Et le huitième, c'est pour moi une surprise, Star Trek Doctor Who Assimilation.
Non, c'est Adventure Time.
Non, c'est Star Trek The Next Generation Doctor Who Assimilation.
C'est bizarre, ça. C'est le huitième, ça.
Volume 2, qui est le huitième... le huitième ça se classer dans le top. Je suis assez surpris que je pense que c'est Doctor Who qui fait plus vente que Star Trek Next Generation, mais je suis assez surpris de voir un produit Star Trek dans les 10 meilleures ventes du mois.
Et Ravine que Bruno avait chroniqué qui se classe 11e.
Ouais, alors qu'il est sorti en fin de mois en plus, hein, donc
fin de mois,
je pense que c'est beaucoup marché par les précommandes là.
Ouais, et je crois qu'il y a eu des ruptures, enfin ils avaient pas assez d'exemplaires à distribuer, donc il va y avoir un second print bientôt.
Alors, 14e, je le cite, puisqu'on va en parler juste après, c'est, selon les classements Diamond, Naruto volume 60, qui se classe 14e. Et justement, les chiffres des TPB sont à prendre avec des pincettes, puisqu'ils ne concernent que le circuit Diamond. Selon un autre top établi par les libraires américains, la plus grosse vente du mois de février, c'est le Naruto volume 60, et en deuxième, le Walking Dead Compendium volume 1.
Donc voilà le différence entre le réseau de Diamond et le reste du réseau des librairies.
À savoir que le troisième de ce top, c'est le Walking Dead Compendium, volume 2.
Et on voit quand même la différence en fait, de la taille des réseaux, que ce soit au Japon, en France ou Amérique. Puisqu'au Japon, Naruto, chaque volume se vend aux alentours d'un million d'exemplaires. En France, c'est entre 200 et 250 000. Et là, tu descends à 3000.
On sait pas, parce que pour tout ce qui est le top des libraires, on n'a pas les chiffres exacts. Par contre, c'est vrai que pour le circuit Diamond, on est à peine à 3000.
Voilà, donc c'est légèrement ridicule. On voit quand même la petite taille du réseau Diamond sur les graphiques nouvelles.
Et malgré tout, ils ont deux numéros d'avance sur nous, et ça, c'est dégueulasse.
Voilà. Vas-y, c'est ton badge de la semaine, Bruno.
Voilà, c'est ça, exactement.
Quatrième, citons le Sailor Moon volume 9. qui donc
le plus grand manga de tous les temps, bien sûr.
Se vend énormément aux États-Unis, hein, la preuve. Et enfin, cinquième du top des libraires, Walking Dead, volume 17. Donc quand même 3 places sur les 5 de Walking Dead.
Mais pour parler de Sailor Moon, Steve voulait pas le dire, mais il a lu du Sailor Moon et il m'a même confié que c'était pas si mal.
Ah mais oui, non, mais il y a très très longtemps, avant que je me mette au comics.
Ah là, quand tu balances, Benny.
Voilà.
Avant que je me mette au comics, effectivement, je lisais du manga et j'avais lu du Sailor Moon et effectivement, ça n'avait rien à voir avec l'adaptation télévisée. Hein. C'était beaucoup plus adulte.
Voilà, voilà. Steve vient de dire du bien de Sailor Moon.
Bah oui, mais écoute, si c'est bien, je vais pas me cacher, quoi.
Non, mais voilà. Voilà. Mais c'est tout.
Si ça se trouve, un jour, je lirai My Little Pony et je vous dirai que c'est la meilleure lecture de toute ma vie, quoi.
Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr.
Ou pas.
Je suis sûr que Ben 10 va le prendre.
Tu vas devenir un brownie.
Il va faire un relaunch.
Un brownie.
Oui, il paraît que c'est le nom des gens qui aiment bien les Mon Petit Poney.
Ouais, c'est surtout les gens qui mangent du Space Brownie, je pense, qui aiment Mon Petit Poney, quoi. Mais bon. Allez, on va passer maintenant au gros sujet de la semaine. Le gros sujet de la semaine, c'est le South by Southwest. Oh putain, je l'ai foiré. Le SXSW, un abrégé,
ouais,
qui s'est tenu ce week-end à Austin, au Texas, une convention basée sur les nouvelles technologies. Et Marvel était présent à cette convention. C'est d'ailleurs un des seuls éditeurs comics à y être. Et ils avaient de grosses annonces à faire. On a commencé la semaine avec une première annonce. C'est Marvel Unlimited, changement de nom pour le Marvel Comics Digital Unlimited qui avait avant sur leur site. Non, c'était Marvel Digital Comics Unlimited, pardon. Et l'acronyme, c'était MDCU. C'est drôle, d'ailleurs.
Ah, voilà.
Peut-être aussi pour ça qu'ils ont changé leur nom en Marvel Unlimited, puisque bah ça évite, ça fait juste MU et ça fait pas, y a pas de DC dans le mot, quoi. Ce qui visuellement, bah ouais, mais pour les communicants. Hein. Alors, Marvel a annoncé que sa plateforme Marvel Unlimited reprendrait, comme ce qu'il faisait avant, l'ensemble de leur catalogue digital pour un abonnement annuel ou mensuel. Hein. Ça va donc, c'est $10 le mois ou $60 à l'année si on s'inscrit avant le 15 avril, là, qui est l'offre de lancement.
Et on peut avoir quoi avec ça, du coup ?
Il y a actuellement plus de 13 000 comics dans leur base de données et tout est lisible. Voilà, à partir du moment où tu es abonné, tout est lisible. Tu peux lire n'importe quel comic digital. Sur cette plateforme, sur ce système-là, il n'y a rien qui ne soit pas sorti il y a moins de 6 mois. Il y a quand même un petit décalage.
Et il me semble qu'il n'y a pas du tout la lecture facilitée comme sur Comixology. Je crois qu'il n'y a pas, lecture intelligente. Je crois que c'est juste des planches scannées, quoi.
Ça, je suis pas sûr. C'est possible, ouais.
Il me semble que j'ai lu ça quelque part.
Alors, pourquoi si on reparle de cette branche de chez Marvel, le Marvel Digital comme ça, c'est parce qu'ils ont étendu leur offre, ils n'ont pas simplement changé de nom, ils étendent aussi leur offre enfin aux iPad et iPhone, et ils prévoient aussi pour Android bientôt, puisque actuellement Marvel Digital c'était uniquement sur votre ordinateur, ce qui peut être quand même très chiant. Cependant, ce ne sera pas comme Comixology, on ne peut pas télécharger les comics pour les garder sur son appareil mobile, enfin en tout cas il y a une limitation, on ne peut en garder que 6.
Ça, ça, c'est pas terrible.
Petit problème. On peut lire que 6 comics offline. Après, si t'es connecté, genre en 3G, en mobilité, bah, tu pourras quand même y accéder, quoi. Mais par contre, faut avoir un bon réseau 3G et pas avoir peur de perdre son forfait data. Donc voilà la première annonce. La deuxième annonce, c'était qu'ils rendent disponible ce fameux number one, ce gros teaser number one que l'on a appris. Ils rendent disponible 700 numéro 1 gratuitement.
Ouais, presque tous les numéros 1 qu'ils ont, quoi, au final. Et
À part Bruno, je vous sens quand même super blasé, quoi, vis-à-vis du digital.
Bah oui.
Oui, moi je t'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse très peu dans la mesure où je trouve ça toujours trop cher. Alors là, l'offre du 60€ l'année. Non, mais attends, l'offre du 60€ l'année, je trouve ça va. Je trouve ça sympathique. Mais les trois quarts du temps, quand j'entends les chiffres sur le digital, même quand ils font des promotions, je trouve ça toujours trop cher, quoi.
Alors, savoir que sur le Marvel Comics Digital, chaque semaine, il y a toujours des nouveaux comics qui sont scannés, qui sont ajoutés, quoi.
Ajoutés, oui.
Chaque semaine, il y a une bonne palanquée qui arrive entre une trentaine et une cinquantaine de nouveaux comics qui sont scannés et qui sont disponibles.
Quand tu dis nouveaux comics, c'est toujours avec un décalage, effectivement, de 6 mois.
Ah oui, non, mais nouveaux comics, ça peut être aussi des vieux trucs des années 60 qui sont rendus disponibles sur la plateforme digitale. Mais il y a environ 30 à 50 ajouts par semaine, quand même.
Ouais, dans la base de données.
En général, ce sont toujours des arcs complets. Ils essayent d'ajouter par arc, au minimum. Alors des fois, on va avoir des semaines où ça va être quasiment que du Iron Man ou que du Hulk qui va être ajouté. On va avoir une grosse palanquée. Et puis la semaine d'après, ce sera autre chose. Et puis des fois, ce sont des un petit panaché d'un peu tout, quoi.
Donc le mot du Comic City, ce sera palanqué aujourd'hui.
La palanquée. Mais ouais. Bah après, moi, je suis pas un fan de digital, hein, donc. Ça, mais par contre, le fait de proposer les numéros 1 gratuitement, c'est quelque chose que je trouve bien. Il y avait déjà Image qui faisait ça. Ça permet de tester une série sur son ordinateur et pour après se dire si on continue ou non en Comic Shop. Quoi.
Alors apparemment, ces 700 numéros 1 seront aussi disponibles sur Comixology et pas uniquement sur la nouvelle plateforme Marvel Unlimited.
Voilà, pour et ceux d'ailleurs, Comixology déjà... est mort hein, aujourd'hui.
Ouais, bah il est encore mort.
Ouais, mais c'est peut-être pas étonnant, il y a peut-être trop de monde, hein, je sais pas.
Bah là,
c'est... Bah tant mieux. Bah ça prouve que ça marche, hein. Si je trouve ça.
Du monde.
700 voilà. Numéros.
C'est la preuve, encore une fois, que les comics sont trop chers pour le public et que dès qu'il y a une offre promotionnelle intéressante, ça attire du monde.
Oui, mais attends, on va pas se le nier aussi. Enfin, je veux dire, on est dans une société où on veut tout gratuit. Si c'est digital, dans l'esprit, c'est gratuit, quoi. Avec les téléchargements de films, de musique, etc. Pour la plupart des gens, ce qui est digital, ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, ça ne devrait pas en avoir, en fait.
J'ai cru comprendre qu'il y avait des bonnes surprises parce que parmi ces numéros 1, t'as des one-shots. T'as par exemple, j'ai vu qu'il y avait le X-Men Babies, enfin le Marvel Babies là, qui est par exemple fait partie des gratuits, un des titres qui est assez récent et qui a beaucoup marché, où il n'y a pas besoin de lire la suite pour apprécier. Donc ça peut valoir
le site Marvel aussi sur Marvel a aussi planté.
Ouais, ça peut valoir le coup d'aller regarder quelques petits numéros 1 quand même, par-ci par-là. Après moi je suis déçu par rapport au teaser, je m'attendais à un truc super cool pour les comics et pas un truc en rapport avec le digital, même si c'est ce qu'on avait prédit depuis très longtemps.
En même temps, on comprend mieux le teaser, c'est ce sur quoi j'allais venir, avec tous ces noms de super-héros et tous ces noms de créateurs, effectivement le teaser était juste.
Ouais.
L'autre chose qu'ils nous ont appris aussi, toujours concernant digital, puisque de toute façon comme c'était une convention sur la technologie, c'est forcément basé sur le digital, c'est qu'on va avoir un nouveau concept sur les comics digitaux, ça s'appelle le projet Gamma. Alors moi je dois avouer que je suis assez perplexe.
Je trouve ça tout naze.
Moi aussi, bon, honnêtement, faudra tester je pense pour s'en rendre compte. On va avoir du son avec nos comics digitaux.
Ah,
mais attention,
la musique.
Pas que des bing bang pouf, on aura de la musique qui ira au rythme de la lecture et qui sera en relation avec ce que l'on lit, des musiques composées uniquement pour ça, prévues pour tel et tel épisode.
Ouais, par exemple, si
bah
c'est
non, je trouve ça bien.
Par exemple, si c'est bien plus sympa que ce que t'as annoncé avant là, tu vois.
Ouais, c'est kitsch. Après, on sait pas la qualité des musiques.
Ah non, moi je trouve ça très bien, justement, parce que justement la musique c'était ce qui manquait en fait au.
Oui, mais ce sera pas des trucs licenciés.
C'est une dimension sonore.
Ce sera pas des trucs licenciés, ce sera des musiques. Faite par une société.
Bah, et alors ?
Ouais.
C'est pas dit que ça soit tip-top, quoi.
Ouais, bah,
enfin, là, dans la bande-annonce qu'on voit.
Ça peut être nul comme ça peut être très bien. Hein.
Moi, personnellement, ouais, j'aime pas qu'on m'impose la musique quand je lis un comics.
Déjà,
je choisis la musique que
on
je veux en
pas.
Fonction de l'ambiance que je veux, quoi.
Non, mais on te l'impose pas, c'est un choix. C'est où tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas, mais qu'importe, en fait.
Moi, j'écoute
c'est
mes comics
plus,
dans
quoi.
Le silence. Enfin, j'écoute mes comics.
Je lis
mes
comics en silence. Je me suis relu les Saint Seiya comme ça avec l'album du dessin animé qui tournait. Franchement, j'ai kiffé, quoi.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait justement un affectif entre la musique qui était dans le dessin animé et le manga.
Mais
si
là, il n'y a pas de musique.
Si t'as une musique d'ascenseur à la con qui vient se mettre dans ton comics,
tu penses bien que c'est étudié. Ils vont pas.
Bah tu coupes.
Ils vont pas te mettre une musique d'ascenseur.
Non. Alors regarde les bruitages, moi je trouve ça rigolo, mais une musique, moi ça me passionne pas. Après
ouais,
si c'est gratuit, pourquoi pas.
Nous teaser ce gros truc là, ce gros truc qui arrivait.
Projet Gamma, franchement plus grandiloquent et tout, vas-y.
Oui, c'est un peu ridicule, mais je trouve que l'idée est bonne. Je pense que
oui,
ça mérite
aussi.
D'être creusé et honnêtement ça m'intéresse beaucoup plus que.
À quand l'odorama quoi.
Non mais c'est bizarrement les gens ont tous craché à la gueule des motion comics, mais finalement s'en rapproche énormément.
C'était super mal fait.
Bah, ouais mais attends entre la guided view et la musique derrière, bah on est quasiment en motion comics quoi. Donc franchement tout le monde a craché dessus et là apparemment on s'en rapproche et ça plaît aux gens. Bon je sais pas. Moi honnêtement ça c'est vraiment une annonce qui me met, enfin je trouve ça ridicule quoi.
Moi non, je trouve pas, parce qu'on a de plus en plus de dessinateurs qui ont un style cinématographique, donc avoir de la musique avec, c'est l'évolution normale.
Voilà, c'est l'évolution, ouais. Je suis d'accord avec Sam là pour le coup. Ça, enfin, voilà. Bon.
Ça y est. Il va se passer une apocalypse cette semaine, je pense, hein, Bruno.
Ils sont d'accord.
Je sais pas,
on est de plus en plus d'accord, Benny et moi. Ah donc,
ouais.
Vous allez fusionner
bientôt.
On est tous les deux pas d'accord. On trouve ça nul, alors que pourtant c'est nous qui sommes fans plutôt du digital comparé à Benny et Sam. Et eux, ils trouvent ça bien, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? La polarité du monde va s'inverser. Attention.
C'est une idée sympa et voilà. Là, ouais. Ça m'intéresse, quoi.
Putain, on est tombé sur Terre 2, Bruno, je crois.
Exactement, ouais.
Sinon, vous avez lu Saga, au fait, c'est un truc super sympa.
Ouais, c'est vachement bien, hein.
Ah non, fallait dire non, toi, Sam.
Il a pas compris, là.
si, j'ai compris, mais moi, je change pas d'avis. Je ne change pas d'avis, hein, sur mes
toutes
trucs,
les terres, c'est le même.
Bien joué.
C'est de la merde. C'est de la merde. Terre 3. C'est de la merde. Terre 52. C'est de la merde. Terre numéro 576. C'est de la merde.
Enfin, dernière annonce concernant le digital et Marvel. Bah, on verra si c'est de la merde. En tout cas, rappelez-vous les Infinite Comics dont on a parlé avec le Guardian of the Galaxy Infinite qui est sorti mercredi dernier. Mmh. Eh bien, c'est quelque chose qui marche et ils vont nous sortir des séries toutes les semaines avec du Infinite Comics, un peu ce que fait déjà DC avec ses Legends of the Dark Knight ou bientôt son Adventures of Superman.
Ouais, mais bon, ça marchait parce que c'était gratuit, les Infinite Marvel.
Ah, les non, il y avait que le premier qui était gratuit, puis le.
Bah, les autres,
le
ils étaient offerts avec les AVX, quoi. Donc,
ils étaient offerts, mais sinon, cool. Tu pouvais l'avoir, enfin, si tu voulais que le Infinite, tu devais le payer. Alors là, on nous a annoncé ça commencera le 9 juillet déjà, et on nous a annoncé une série qui s'appellera Wolverine Japan's Most Wanted, scénarisée par Jason Aaron et comment s'appelle-t-il, Jason Latour, je crois.
Latour.
Oui, c'est de Jason. Et j'ai oublié qui est le dessinateur, je ne le retrouve pas. Paco Diaz.
Ouais. Pour la sortie de Wolverine, quoi.
Voilà, ce sera une...
Le film de l'Immortel, là, ou je sais plus quoi.
Ce sera une série qui durera 13 numéros. Prévu en digital.
Ah oui, je croyais que c'était des one-shots, en fait, que toutes les semaines, il y avait un one-shot différent. En fait, ça peut être des séries longues.
Bah là, en tout cas, il y aura 13 chapitres hein, pour celui-ci. Ça sortira tous les mardis, chaque semaine. Fameux Wolverine Japan's Most Wanted. Il y avait une petite vidéo qui présentait le truc, je l'ai regardé, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Les effets ont l'air plutôt bien faits, on est plus proche des premiers Infinite Comics qu'on avait vu que celui qu'on a lu la semaine dernière qui était un petit peu plus en dessous
du vrai turbo-média, quoi.
Ouais, voilà, c'était vraiment plus sympathique, là c'était vraiment très immersif.
Je me demande si, encore une fois, on va pas avoir à terme ces trucs-là adaptés sur papier.
Bon, peut-être bien, ouais, mais...
Bah, en tout cas, ça perd un petit peu ensuite en adaptation
bah,
papier.
Oui, bien sûr.
Ça perd un petit peu quand même. Bah, je pense que c'est bien aussi de le rendre disponible en papier bah, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité. Bon, même si avec un ordinateur, normalement, tout le monde est censé pouvoir le lire, mais c'est quand même plus adapté à un format tablette quoi, ou un format téléphone. Mais bon, c'est bien de pouvoir le rendre disponible en papier pour ceux qui le voudraient et qui ne sont pas passés au digital. Quoi. Maintenant, bon, c'est pas là-dessus qu'il faut espérer doper les chiffres de vente.
Et ça, c'était censé être en rapport avec le teaser, le fameux teaser 52 avec les griffes de Wolverine, c'est ça?
Bah, je pense, oui, puisque ce sera quelque chose qui sortira toutes les semaines.
Ouais, donc du coup, ça fait trois teasers posters qui finalement donnent des news pas folles, quoi.
Enfin, je suis désolé, moi, la musique, ça a révolutionné ma vie, et puis voilà.
C'est bon.
J'attends de lire du Philippe, d'entendre du Philippe Risoli avec Wolverine. qui trucide des chiens.
Ah, alors par contre, je ne sais pas si pour le Wolverine on aura du sang. Là, c'est pas précisé encore.
Non, bien sûr, non, mais je déconne. Hein, de toute façon.
Et le projet Gamma, pour le moment, on nous parle juste de ce que c'est, on nous donne pas de date de sortie.
Merde, projet Gamma.
On précise pas à partir de quand, sur quel comics, etc. La vidéo qui explique montre un numéro de Avengers de Hickman sur le premier arc. Mais voilà, c'est tout. Hein. On n'a pas plus d'infos que ça là-dessus pour le moment. Donc, bah. Marvel en tout cas étaient les seuls à faire parler d'eux à cette conférence et ils ont annoncé des gros projets. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste des gros projets.
Après, DC avait de l'avance là-dessus avec tous ces titres exclus digitaux qui sortent depuis maintenant un an, quoi. Donc, ils avaient du retard, quoi, Marvel.
Ce que j'avais cité, donc Legends of the Dark Knight et puis Adventures of Superman qui démarre bientôt, mais on avait aussi la série Arrow, Batman Beyond,
ouais,
on a l'île Gotham aussi.
Smallville, il y a tous les trucs comme ça.
Donc, eux ne sont pas du turbo média, par contre.
Non.
C'est du comic classique prévu pour digital
tout à
l'horizontale.
Ouais.
Allez, on passe maintenant à la citation de la semaine. La citation de la semaine, c'est une citation d'Anne Nocenti qui a expliqué qu'elle est revenue dans le comics, parce qu'elle avait arrêté pendant un temps. Rappelez-vous, elle avait eu une grosse période dans les années 80 où elle était très populaire, notamment sur
Daredevil,
entre autres. Et puis, elle s'était arrêtée, elle s'était mise en retrait. Je crois qu'elle était partie faire des livres pour enfants, si ma mémoire est bonne. Elle est revenue plus récemment avec le New 52, notamment sur Green Arrow. Mais elle fait actuellement Catwoman et Katana. Et elle est revenue parce qu'on lui a demandé de revenir parce qu'il fallait des femmes dans le comics. Un peu sexiste quand même.
Je sais plus exactement quelle est la phrase qui est dit, mais après elle a l'air d'être contente, elle, de travailler sur des titres qui sont portés par des personnages féminins. Donc,
Au risque d'être mauvaise langue, quand on voit le résultat, je sais pas si c'est une bonne chose finalement que, enfin voilà quoi, de revenir pour une, c'est pas une bonne raison en tout cas.
Sur Katana et Catwoman, elle est mieux que ce qu'elle a fait sur Green Arrow, ça c'est sûr.
Elle explique, ça promet, non mais, alors. Elle a expliqué hein, sur Green Arrow, ils l'ont mis sur Green Arrow et que c'était pas quelque chose que, enfin voilà, elle a pas réussi à rentrer dans le personnage. Elle a essayé de regarder les différentes versions et ben voilà, le personnage lui parlait pas quoi. Grosso modo.
Ben elle aurait dû refuser.
Ouais, mais elle était vraiment contente qu'on vienne la chercher. Elle était contente qu'on vienne la chercher, même si c'était pour la décision de, on a besoin de femmes.
Mais enfin, je veux dire, si elle est pas capable, entre guillemets, après ça reste à démontrer, mais d'écrire, alors elle a écrit Daredevil, c'est vrai, en plus, bon, c'est assez étonnant, mais si elle est plus capable maintenant d'écrire autre chose que des personnages féminins, c'est un peu dommage, puisque voilà, elle devrait être à même d'écrire les deux.
Bah, maintenant, en tout cas, elle fait deux personnages féminins, voilà, comme tu l'as dit, Katana et Catwoman. Ayant lu le premier Katana, c'était pas trop mauvais. Bruno, tu confirmes ?
Oui, je confirme. C'était cryptique par moment, mais pas trop mauvais.
C'était pas trop mauvais. En tout cas, c'était assez intriguant pour aller voir le numéro 2. On verra la suite. C'est vrai que moi, à la lecture du premier Green Arrow, j'ai même pas lu son run. Je me suis arrêté juste avant parce que le début, c'était Dan Jurgens. C'est vrai.
En plus, elle était pas aidée graphiquement. Il y avait un artiste qui était pas terrible aussi avec elle.
Mais rappelez-vous justement aussi pourquoi je pense que DC avait été chercher. Rappelez-vous de cette polémique à l'époque où ils nous avaient annoncé les New 52. Quand on a commencé à savoir qui serait sur quoi, il n'y avait aucune femme au départ.
Ouais, c'est
vrai. Si, il y avait Gail Simone.
Ils l'ont rajouté après, parce qu'au départ, il n'y avait aucune femme.
Bah, je dirais, c'est pas la faute des maisons d'édition, c'est juste qu'il n'y a pas de talent féminin qui émerge niveau comics. C'est
tiens, quand on parle aussi de nouvelles séries à mettre, qui mettent Power Girl, qui mettent Spoiler, qui mettent des séries comme ça aussi.
Après, DC a pas mal de titres féminins, hein. Enfin, de titres avec des persos féminins.
Ouais, enfin, pas tant.
Sur le devant de la scène. Bah, plus que chez Marvel. Enfin, entre les Catwoman, les Batwoman, les Wonder Woman.
Oui, mais il y a plus de titres aussi. Il y a plus de déchets aussi, hein, j'ai envie de dire.
Sam, tu parlais du fait que, il y en a pas. C'est pour ça qu'il y en a, enfin, qu'il y a pas de.
Ils n'arrivent pas à faire émerger de talents.
Ils font pas émerger de nouveaux talents féminins. Mais il y a deux possibilités à ça. Soit il n'y a pas de talents qui veulent émerger, soit on leur donne pas la chance parce que ce sont des femmes. Après, on n'est pas dans la cuisine derrière, donc on ne sait pas trop comment ça se passe.
Je pense pas qu'il y ait cette logique.
Pourquoi tu parles de cuisine quand
voilà,
on parle des femmes
Mais quel sexisme.
Je ne pense pas qu'il y ait cette logique-là parce que logique des comics, c'est on embauche qui fait vendre. Point. Que ce soit un homme, une femme, un noir, un blanc, un arabe, un rouge, un vert, rien à péter. Tant qu'il vend, c'est pas le problème.
Le truc, c'est que ce qui est étonnant, c'est que même sur la scène indé, on n'a pas tant que ça d'artistes féminins, alors qu'ils auraient plus leur chance d'aller sur le devant de la scène. Il y a moins peut-être de.
Et c'est justement là le problème, c'est que les maisons d'édition comme DC et Marvel vont recruter leurs nouveaux talents chez les indés. S'il n'y a pas de femmes chez les indés, ils peuvent pas les recruter. Hein.
Autant comme artiste dessinatrice, on a Sarah Piccelli qui est vraiment
plus en plus.
Très très bonne. Ok, mais dans les scénaristes,
ils vont chercher à l'extérieur.
Dans les scénaristes, dans là, je t'avoue que ça fait un bail que j'ai pas été bluffé par une scénariste.
De Koenig, pardon, qui sort là un petit peu du lot.
Ah bah c'est pas terrible, hein. Franchement.
Mais
c'est pas
mais je veux dire parmi les noms récents féminins qui sont sur le devant de la scène.
Et Catherine Monnemonen aussi.
Et attends. Oui, et attends, il y en a qui sortent parce qu'elles sont mariées avec tel
ou
tel
auteur.
Oui, enfin
ça c'est un peu exagéré par contre, mais enfin je veux dire.
Voilà. Donc c'est
je
ça
pense
le problème.
Pas que ce soit lié à ça.
Mais c'est vrai que c'est exactement ce que j'allais dire, Benny. On a beaucoup plus d'artistes féminins que de scénaristes féminins aussi.
Et si tu le regardes, ils ne le cherchent pas aux États-Unis vraiment. C'est en dehors des États-Unis.
C'est clair.
Il y a Nicolas Scott qui fait pas mal de boulot chez DC.
Mais je crois pas qu'il est.
Elle.
Elle, je ne crois pas qu'elle est américaine.
Oui, mais peu
il me
importe, de toute façon,
semblait.
elle est artiste, elle est pas scénariste en un moment.
Mais de
Ouais,
toute
voilà.
façon, après, ça dépend des. Comment dire peut-être qu'effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas énormément de nanas qui veulent forcément travailler dans ce milieu. Et à
Voilà, je pense
l'inverse.
qu'elle se dirige plus vers la littérature classique ou la télé,
Ouais. Mais
simplement, que les comics.
chez DC, il y a aussi celle qui fait Sword and Sorcery qui se
Oui, mais
débrouille
elle
pas
vient de
trop
la
mal.
littérature, il
Christy
me
Marks.
semble.
Ouais, Christy Marks, qui vient du dessin animé aussi, comme tu disais justement. Mais
Voilà, il y a des milieux, enfin, je veux dire, il y a des filières traditionnelles vers lesquelles les femmes se dirigent, peut-être parce qu'elles sont plus à l'aise là-bas que sur les comics, sur un marché qu'elles perçoivent comme traditionnellement masculin et pour lequel elles n'ont pas vraiment d'intérêt.
Donc
Donc
ceci est un appel aux
ils n'en lisaient
femmes.
pas avant, donc
Non, mais c'est pas un appel aux femmes, c'est
Mettez-vous
juste, c'est.
au scénario de comics, tentez votre chance et.
Bah oui, mettez-vous aux comics,
De toute
voilà.
façon, le monde du comics est majoritairement masculin, déjà ne serait-ce que par le nombre de héros face au nombre d'héroïnes.
Mais non, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est surtout soyez convaincante, voilà. Soyez convaincante, parce que franchement, là, niveau scénariste féminin, y a pas grand-chose. Pas grand-chose de terrible, quoi.
Allez, on va passer à la partie Screen News maintenant de la mission et on commence avec une annonce. Carrie Fisher a bien confirmé sa présence dans la prochaine trilogie Star Wars.
Ouais.
Bah tant mieux pour elle.
Donc les trois sont là. Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill. Donc
Par contre, pas dans le bikini, je crois, hein, d'après ce que j'ai compris.
Là, je
Bon, de
pense
toute
que
façon,
pour
pas.
mieux, pour nous, c'est mieux quand même.
Oui, et puis Carrie Fisher, ça a jamais été tellement.
Oh, arrête, Benny.
Ah non, pas du. Alors là, pas du tout. J'ai jamais
Attends,
compris d'ailleurs comment.
à l'époque, elle était quand même plutôt pas mal.
Bah, en Slave Leia, voilà, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de représentations de
Ouais,
la jambe
ouais,
féminine aussi déshabillée, quoi.
ouais. Ouais. Mais franchement. Enfin voilà,
Surtout
quoi.
sur un média grand public. Après, tu l'avais dans les versions érotiques, mais l'érotisme, c'était réservé à un public bien particulier.
Non, mais elle était vraiment très bonne actrice sur Star Wars, sur la première trilogie, et ça fait plaisir de retrouver son personnage. Après, je sais que c'est quelqu'un qui est scénariste, elle, d'ailleurs, et qui a pas mal de caractère et tout. Parfois, elle prenait beaucoup de recul sur le succès qu'elle avait eu avec Star Wars. Ça m'étonne un peu qu'elle revienne, justement. Mais
J'aime
bon.
bien Bruno, tu sais, comme tu tombes des
Pourquoi
nues à chaque fois, mais il y a aussi le cachet qui
pas?
parle,
Mais oui, non,
hein.
mais il y a le pognon, je suis d'accord,
Bah
mais
évidemment, de toute façon, à mon avis, pour la somme qu'on lui a proposée, si c'est juste le temps de faire quelques petites apparitions comme ça par-ci par-là dans un film,
Bah
tu vas pas dire
justement,
non.
j'espère que ce sera pas juste des petites apparitions et que bah peut-être qu'ils arriveront à les intégrer au cast de façon intéressante et voilà, un petit peu comme ce qu'ils ont fait comme ce qu'avait fait J.J. Abrams justement avec Leonard Nimoy sur Star Trek son premier film quoi.
Moi, je pense qu'elle se sera mariée avec Jabba déjà.
N'importe quoi. Oh, le connaisseur de Star Wars quoi.
T'as vu un petit peu, hein?
On continue, on passe à la franchise Marvel. Joss Whedon a confirmé une rumeur enfin, a continué de démentir une rumeur qui avait déjà été démentie la semaine dernière, mais qui apparemment, auprès des fans, ça ne suffisait pas. Un film solo de Hulk qui reprendrait le thème de Planète Hulk, c'est démenti.
C'est dommage. C'est
Ah
dommage.
ouais,
Moi,
c'est dommage.
ça me faisait déjà, voilà. Dès le début, j'étais emballé.
C'est dommage.
C'était prévu pour la phase 3, et en tout cas, pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Ou bien alors, c'est pas lui du tout
Mais
qui
il a
va s'en
expliqué
occuper.
que Hulk était le personnage le plus difficile à faire au cinéma, parce qu'il fallait toujours trouver un espèce d'équilibre entre Hulk et Banner, et que si on faisait Planète Hulk, Banner, il apparaissait quasiment pas, en
Et ben justement, c'est ça qu'on veut.
fait.
Donc.
Honnêtement, oui, c'est pas grave. Du moment que Planète Hulk, c'est une bonne histoire reste une bonne histoire, qu'elle soit au cinéma ou qu'elle soit sur papier. Oh, c'est beau, c'est beau.
Prochaine apparition de Hulk dans Avengers 2, et puis après, on verra. Voilà, grosso modo, ce qu'il nous annonce. Les dessins animés Marvel vont revenir alors que certaines saisons se terminent. On va en lancer de nouvelles. Avengers Assemble et Hulk and the Agent of Smash, dont on entend parler maintenant depuis quelques mois, vont démarrer aux États-Unis. Alors, les dates, Avengers Assemble arrivera aura un preview, pardon, le 26. Je suis en train de dire une bêtise là. Non, voilà, ils démarreront le dimanche 26 mai. Non, c'était un preview, c'était bien ça. Je suis perdu dans mes notes. Voilà, donc un preview le 26 mai et le début de la série le 7 juillet. Tandis que pour Hulk and the Agent of Smash, le début de la série sera le 11 août.
Ouais, bah
Eh bien, nous
quand on
serons
voit
tous au rendez-vous, dis donc.
Quand on voit le poster
Ou
de
pas.
Avengers Assemble, ça donne pas envie, hein. C'est vraiment pas beau, mais bon.
Bah, c'est le design Marvel des films, hein. Voilà.
Ouais, mais c'est pas très bien dessiné, hein.
Bon. Bah, après, entre le statique et le en mouvement,
ouais,
puis, tu sais,
voir, faudra voir.
Honnêtement, est-ce que t'as vu un dessin animé récent bien dessiné, toi?
Bah, Young Justice.
Non, je suis désolé.
le style
graphique est particulier aussi. Moi, je suis pas
ouais,
super
ouais,
fan.
Ouais, mais c'est
quoi.
Plus proche, Young Justice, c'est plus proche oui, de Batman The Animated Series que ça, quoi.
Parce que tu le compares.
Quand on aime Green Lantern Animated Series, on se la ferme.
Parce que.
Horrible truc en CGI,
Je peux en placer une aussi, peut-être, un moment.
Non, tu peux pas. J'ai raison, tu as tort, fin de l'histoire.
Oui. Donc, le truc, c'est que on compare toujours avec le Batman Animated Series, puisque c'est ce qui a fait énormément carton dans les années 90.
Ouais,
mais faut pas oublier que Marvel avait un autre type de dessin. Regardez X-Men Animated Series des années 90. Regardez le Spider-Man Animated Series des années 90. C'était un autre type de design.
Bien plus américain justement dans le design et bien plus Jim Lee-esque.
Sans moyen.
Non mais Jim Lee-esque quoi. C'est surtout sur les X-Men.
Sur X-Men ouais.
Spider-Man quand même aussi pas mal puisque Peter Parker était loin du gringalet. Là il avait une carrure de surfeur américain. Il était toujours à la cool en t-shirt. Enfin, voilà c'était.
Regardez les dessins animés qu'il y a eu dans les années 2000. Regardez X-Men Evolution, par exemple. Je trouve ça affreux. Je préfère largement un Avengers Assemble qu'un X-Men Evolution, quoi. Visuellement,
bon,
voilà.
À voir. Je lui laisserai sa chance. Premier épisode, quand même.
Ouais, je pense qu'il faut déjà aussi voir ça tourner, comment c'est animé, parce que le dessin peut être, de toute façon, déjà, c'est prévu pour des plus jeunes audiences, quoi. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut laisser sa chance au moins à voir les teasers et après, parce qu'un poster, c'est difficile, quoi.
Bah moi aussi, moi c'est surtout ça en fait, c'est pas le design qui me dérange le plus en général, c'est l'audience et puis les histoires. Donc bon, là si c'est clairement pour un jeune public, bon bah tant pis, je passerai mon chemin, mais bon, c'est un peu dommage.
Restons dans le côté un peu dessin animé, même si là on parle de cinéma. Le Ninja Turtles de Michael Bay fait parler...
Et... Mutant, t'entends.
Bah non, Ninja Turtles.
Oui, mais ça sera une mutante, parce que sinon il va se faire prendre, je pense.
Non, apparemment,
pour
c'est Ninja
non.
Turtles. Hein. Il y aura plus de teenage, il y aura plus de mutants. C'est des tortues extraterrestres. C'est
en
toujours
même temps,
prévu pour
mieux,
être
hein,
ça.
Parce que chez nous, c'est Tortue Ninja et on s'en porte bien. T'imagines si on avait un titre aussi long hein.
Les tortues adolescentes mutantes, Ninja. en tout cas, donc, celui qui n'est pas content, c'est Peter Laird, qui est un des co-créateurs avec Kevin Eastman des Ninja Turtles. Et qui, justement, le descend constamment sur son blog. Il avait revendu ses droits à la Fox, mais il est juste dégoûté de voir à quel point la franchise à quel point elle en est rendue. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui, on voit, il aime toujours son travail puisqu'il continue sur son blog à donner des informations concernant la création. Comment s'était passée la création? C'était pas juste, voilà. Il voulait se débarrasser de ça pour récupérer de l'argent parce qu'il avait des besoins d'argent à cette époque. Il n'a plus aucun droit sur la création, mais il peut quand même se continuer de permettre de se critiquer. Et la direction qui est prise ne lui plaît pas du tout. Et je crois que finalement, c'est peut-être lui qui a raison.
Ouais,
Après l'O'Neill qui est joué par Megan Fox, les Tortues Ninja sous la supervision de Michael Bay, qui ne seront pas des mutantes. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas perso.
Moi non plus.
C'est que dit l'autre créateur? Il est toujours de ce monde, Kevin Eastman.
Kevin Eastman, bien sûr, puisque c'est lui qui avait repris la série chez IDW. C'est lui qui la scénarise.
Lui,
il trouve ça génial.
Il trouve ça génial. Il gagne des sous avec. Donc.
D'accord. Bon bah écoute. Ok. Vu sous cet angle.
Continuons sur les Tortues Ninja. Passons aux jeux vidéo avec une annonce sur les. Marketplace de le Xbox Live Marketplace, pardon, le PlayStation Network ou le PC par Steam. Cet été arrivera un nouveau jeu vidéo de Tortue Ninja basé sur le nouveau dessin animé. La version animée qui ressort depuis 2012. Ça s'appellera Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows et ce sera un gros beat 'em all.
Oui, la bande-annonce ça donne pas spécialement envie. Après, on n'a pas l'impression qu'ils ont eu beaucoup de budget. Et côté design, c'est pas très très bien réussi. Ça a l'air beaucoup plus réaliste en fait. Enfin, entre guillemets réaliste, ça reprend pas le design du dessin animé, qui est plus cartoony. Et du coup, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ce changement. Mais...
Alors, c'est développé par Red Fly Studio, ceux qui ont fait Thor, God of Thunder et Star Wars The Force Unleashed 2.
Ouais, t'es pas de très bon jeu, quoi.
On aura du co-op pour 4 joueurs, hein, bien sûr, on pourra incarner les 4 tortues. Espérons juste que ce sera moins difficile que le premier Tortue Ninja sur NES.
Oh putain.
Vaudrait mieux, oui.
Non, faudrait le refaire en HD, etc., quoi. Avec
Ça,
la même
pourrait être
difficulté.
rigolo, ça pourrait être rigolo à la rigueur. Parce que c'est quand même un jeu culte, hein, Tortue
Ah,
Ninja
c'est un
NES.
jeu culte et franchement, refaire le passage du barrage et du truc dans la flotte, là où faut désamorcer les bombes en HD, ça serait bien fun.
Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez.
Ah, Sam.
C'est
Faut que
tellement
t'ailles voir des vidéos de
mythique.
ce jeu. Faut que t'ailles voir des vidéos de ce jeu. C'est énorme.
J'avais 8 ans quand je l'ai fait.
Ouais, moi je l'ai jamais fini, hein, perso. Voilà. C'est ma bête noire ce jeu. Comme beaucoup, je crois. On termine la partie jeux vidéo avec Walking Dead, la saison 2 qui avait été annoncée par erreur par un représentant de Telltale Games pour automne 2014, a corrigé son erreur. Il est bien prévu pour automne 2013.
Voilà, oui, bon, vous pouvez s'y attendre, et c'est une bonne nouvelle, puisque bah du coup il y aura une saison par an, donc c'est bien.
Voilà, on avait vu des fans déjà commencer à pleurer, puisque le truc sortait que l'année prochaine, ils pensaient qu'ils allaient devoir attendre plus d'une année encore avant de pouvoir continuer le jeu.
Voilà. Pauvre fan. Non, non, mais c'est cool.
Ça arrive de temps en temps une boulette d'un communicant comme quoi.
Bah ouais, c'est clair.
Allez, c'est tout pour la partie Screen News de cette semaine. Petit badge de la semaine?
Non, finalement, non.
Non, ça va.
Non.
Eh ben moi, ce sera Superman Unchained. Parce que ce titre, il est nul. Enfin, on termine avec le Comics-Com, la réponse aux fans de l'émission, aux auditeurs. Et Bruno, tu avais un message tout particulier.
Oui, c'est ça. Bah, j'avais une pensée et puis je souhaite un bon rétablissement à Ludovic, qui est un comique citoyen que j'ai croisé plusieurs fois donc au Comic Shop de Bordeaux et bah, qui se remet d'une opération. Et donc voilà, bah, une petite pensée pour lui.
Bon rétablissement, Ludovic, en tout cas.
Ouais, bon rétablissement.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain Weekly News. Bien sûr, on se retrouve en fin de semaine aussi pour le Comics Weekly. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr et retrouver toutes les émissions sur le site ou sur iTunes. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien et n'hésitez pas à faire un petit coucou à notre sponsor Pulps Bordeaux si vous passez dans le coin.
Salut à tous!
Ciao, ciao, ciao!